Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bon dimanche à vous et merci de nous avoir choisis. Nous, c'est Radio Mendeléo dans notre émission Paix et Développement. Paix et Développement. Dès ce dimanche 30 août 2026, Jean-Claude Ndag est à la mise en onde devant le micro Thaïs Bagoula. Nous serons ensemble jusqu'à 10 heures. La matière de ce matin, de ce dimanche dans notre émission Paix et Développement. La tension monte au sein de la classe politique en République démocratique du Congo après les oui du président Félix Tshisekedi à un dialogue. Il était temps de réclamer par l'opposition et les principales confessions religieuses du pays pour régler la crise sécuritaire dans l'Est et les tensions politiques. Mais en validant cette option, le président a fixé des lignes rouges et annoncer d'abord des consultations à travers les pays qui devraient aboutir à un dialogue. Aujourd'hui, la principale coalition d'opposition au pays, la C64, rejette fermement l'initiative visant à mener des consultations populaires. La réaction officielle de l'AFCM23 suite à la suspension des activités académiques par Kinshasa est un rejet total de la décision qu'elle qualifie de nulle, sans effet et arbitraire, irresponsable. Cette fermeture ordonnée le 20 août 2026 par le gouvernement congolais dans 11 universités publiques de Goma et Bukavu fait suite au rejet par Kinshasa des nominations unilatérales des comités de gestion effectués par l'AFC M23 au sein de ces institutions. Ce sont là les deux sujets que nous allons devoir débattre dans ces studios de Radio Mendeléo. Le temps d'accueillir les invités qui sont dans ces studios de Radio Mendeléo. D'abord, nous saluons la présence de Monsieur Elie Habibou Fariala. Il est conseiller du gouverneur de province. Elie Habibou Fariala, bonjour.
Bonjour, cher Thaïs. Bon dimanche à tous les débatteurs ici, bon dimanche à tous les auditeurs et les auditrices de la radio Mendeléo.
Voilà. Merci Elie. Nous avons appris que vous avez des nouvelles attributions. On a changé des attributions.
En fait, il a plu à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de replacer ses confiances à ma modeste personne. Et là, je tiens à les remercier publiquement. Donc désormais, je suis le conseiller en charge de l'agriculture, pêche et élevage, développement rural, conservation de la nature, environnement et tourisme.
D'accord, merci et félicitations Elie Habibou.
Je vous en prie, merci.
Nous sommes dans ce studio avec Idé Bakoulou. Bonjour Idé Bakoulou.
Bonjour Thaïs, bonjour à tous les auditeurs de la radio Mendeléo. Et bonjour aux amis avec lesquels nous sommes dans ce studio.
Merci, nous sommes avec Epimaque Coco. Il est défenseur des droits humains. Bonjour Epimaque.
Bonjour, monsieur le directeur de la radio Mendeléo. Bonjour aux amis avec qui nous sommes dans cette émission. Et bonjour et bon matin à toute la population du site Kivu et de ses environs.
Voilà, dans ce studio, nous sommes très heureux de recevoir encore une fois notre ami Danny Bashige. Danny Bashige qui vient fraîchement de l'hôpital. Il était en convalescence après avoir connu des problèmes sur le plan sécuritaire. Dieu l'a sauvé et Dieu merci. Bonjour Danny Bashige.
Bonjour Monsieur Thaïs, bonjour aux amis avec qui on est dans ce beau studio de la radio Mendeléo. Je dis merci à mon Dieu qui m'a sauvé de cette situation.
Voilà, merci Danny. Je commence par vous justement. Nous avons appris que vous étiez à l'hôpital après avoir connu des actes d'insécurité dans votre quartier. Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Bon, d'abord, mes condoléances à vous parce que j'avais aussi appris à partir de l'hôpital que vous aussi vous aviez connu un deuil. Mais je dois dire que ce qui m'était arrivé, je ne sais pas dire si c'était un coup monté ou c'est arrivé au mauvais moment et à un mauvais endroit ou quoi. Mais je dois vous dire que c'était un certain 19 pour couper court. C'était un mardi, 19 mai, vers 19h. J'étais au deuil, on avait perdu notre vieil papa Mouroula Sébastien, le père à votre... comment vous appelez, des confrères?
Confrères, journalistes.
Le père à Willy Mouroula. Ce vieil était vraiment mon vieil à moi. Alors, et comme nous sommes des voisins directs, donc on était au deuil. Le lundi 18, c'est le mardi 19, on était au deuil. Et le mardi vers 19h moins, bon, je m'étais senti un peu lassé, je m'étais dit, je fais un petit tour du quartier. Et madame était à Kadutu ce jour-là, j'étais en contact téléphonique avec elle. Je devais l'attendre vers le terrain de Moukouko pour qu'on fasse route ensemble et regagner les lieux de deuil. À partir de là, j'entends les coups de balles siffler vers l'église 8e Sepak, Moukoukoué. Et je vois les mouvements agités de la population. Cela comme dit qu'il y a 6 garçons, 6 hommes armés, qui ravissaient téléphone, argent et tout ce que les gens pouvaient avoir ciré. J'avais pris mon téléphone, commencé à appeler les autorités du mouvement pour venir en aide à la population, parce que à 19h, c'est quand même inconcevable que des citoyens puissent envahir les gens comme ça. Quelques temps, 10 minutes après, on me dit, non, mais ils sont en train de descendre les escaliers ici. Nous tous, parce que nous étions un groupe de 10-15 personnes, on s'était cachés, mais bon, essayant un peu de surveiller leur mouvement. Et on les avait vus exactement. Ils avaient avancé vers chez moi. Et nous, on était derrière avec les autres, en train d'attendre que l'intervention arrive et qui était en route. Imaginez-vous, dans un petit temps de 10 minutes comme ça. Et ils étaient allés jusqu'au lieu du deuil, donc à côté de chez moi. Ne trouvant pas peut-être ce qu'ils cherchaient, ils étaient rentrés. Et c'est là qu'ils nous ont vus un peu regroupés à un petit endroit que nous avons l'habitude d'appeler Kukilalo Yachuma. Comme ils étaient à un hauteur un peu élevé que là où nous étions, ils nous avaient aperçus et ils étaient descendus courant.
Ils ont lâché des balles.
Non, pas vite, vite là. C'est seulement quand ils étaient à 4-5 mètres de nous qu'ils ont commencé à tirer. Mais tout le monde avait déjà pris fuite et moi-même, là où j'étais parti me cacher, malheureusement la porte était fermée, j'étais rentré. Et c'est là qu'ils criaient, barrez la route, mufungiapa, mufungiapa, ngaliapa, yapita. Je m'étais dit, mais bon. Maintenant, ayant peur, j'avais jeté le téléphone et j'ai commencé à ramasser les pierres et j'étais ciré en criant aux gens. Mais les balles crépitaient déjà. De partout, ouais. Ça entrait dans les murs de clôtures et consorts. Mais l'un d'eux avait débordé pour aller à un petit endroit. Et là, il tira sur moi. La balle avait atteint un peu en dessous de la poitrine.
Voilà.
Et puis, elle était sortie du côté droit pour sortir les intestins. Et une autre au niveau de la cuisse droite. Elle était aussi sortie d'hier aidant.
Oh là là.
Et j'étais tombé. C'est parce que c'est l'Esprit Saint qui m'avait dit de ne plus crier. J'étais resté calme. Et l'un qui était venu ramasser mon téléphone et mes lunettes avait dit aux autres, « Tu es Ndebinaïchi à parler. » Ils étaient partis. Bon, quelques 2-3 minutes, j'avais crié aux gens, « Aidez, venez-moi en aide, je ne suis pas encore mort. » Les gens étaient venus vite, vite là, on m'embarqua sur la moto et on alla vers l'hôpital général. Je suis heureux d'être dans ce studio avec M. Ide Bakulu Magadjou. Merci beaucoup. L'un de mes grands amis qui était venu le même jour, à la même minute même, je ne sais pas comment il avait eu l'information. Il était venu avec sa charmante épouse et son fils, et M. Benoît Mavou, vite jusqu'à l'hôpital. Et là, j'étais déjà, je crois, j'étais en route vers la salle d'opération. Donc, j'avais subi une opération de 21h jusqu'à 3h du matin. Idé était à l'extérieur. Il était là. Il a passé nuit dehors avec mon épouse aussi, avec son épouse, son fils, jusqu'au petit matin. Le tout premier visiteur que j'avais eu, il y a Eli Abibou qui est aussi dans ce studio avec M. Hamza Routega, que je remercie. C'est vrai, ils étaient envoyés par son excellence, M. le gouverneur de province. Mais bon, ils pouvaient les envoyer. S'ils étaient mal, s'ils étaient animés d'une mauvaise volonté, ils ne pouvaient pas venir. Mais bon, ils avaient ces soucis-là de venir voir leur ami. Dieu aidant, j'avais un peu de force, on avait un peu échangé, c'est comme ça qu'ils étaient rentrés. Et par la suite, le vice-gouverneur va venir, le gouverneur va venir. Je suis vraiment content, je ne dois pas passer, terminer cette émission sans présenter mes remerciements à tous ces gens, parce que en fait, par la suite, j'ai reçu beaucoup de visites. J'avais eu même vos appels, les appels de beaucoup d'amis. Et c'est comme cela, la coordination de notre mouvement qui appelait, qui venait. Je vois Willy Bagugumbe, je vois. En fait, c'était toute une pluie de gens qui venaient me rendre visite et ça me réconfortait.
D'accord.
Et aujourd'hui, je me retrouve, 3 mois après, j'ai fait 3 mois à l'hôpital. Aujourd'hui, je respire. Merci. Gloire à Dieu.
Merci beaucoup. Que Dieu soit loué de voir que vous êtes maintenant en vie, vous êtes déjà en vie. Sinon, en tout cas, toute notre compassion. Merci. Voilà. À l'hôpital général, on s'est vraiment occupé de vous.
Je suis très content que vous me posiez cette question. Vous savez, dans les temps, je pensais que là, on ne fait rien. Parce qu'avec le bobard des gens, on croyait que c'est question seulement d'argent à l'hôpital général. Mais je vous dis, nous avons nos propres fils, nos propres filles, des spécialistes en tout, chacun dans son domaine. Franchement, il s'était occupé de moi à un niveau, et non seulement de moi, mais il s'était occupé, je dirais, de tout le monde. Mais personnellement, et puis je vois des fils maison, vraiment, des Masumbuko, les fils Samusamaki, des Igega, je vois Batote Anyumbani, et ils vous soignent avec un amour profond. J'ai vu beaucoup de gens, ceux qui venaient sans pieds, ceux qui venaient sans bras, mais et même d'autres qui venaient peut-être même sans nez, sans bouche. Mais les spécialistes sont là et ils vous soignent correctement. Mais aussi, je dois dire que c'est aussi avec l'aide de la Croix-Rouge et la CICR. Parce que NITT, ces organisations, je me demande avec la situation financière actuelle, comment les gens se retrouveraient. Bon, les balles qui crépitent ici et là, les basalendo qui font ce qu'ils font.
Donc les victimes comme ça sont prises en charge par
la Croix-Rouge et
les
CICR, sur tous les plans. Donc on vous soigne gratuitement, on vous fait à manger.
D'accord.
Et j'ai dit, tout est là pour cette catégorie des gens.
Merci.
Parce que si, avec la situation financière, je suis en train de me demander comment les gens trouveraient l'argent pour se faire soigner.
Voilà.
Les médecins, bien qu'ils font très bien leur travail, est-ce qu'ils pouvaient aussi être en train de le faire gratuitement? C'est une autre question.
Voilà.
Et donc, il faut quand même arriver à dire merci à tous ces gens qui ont pris soin de nous, que Dieu leur prête vie.
D'accord. En un mot. Merci beaucoup. Il faut dire à nos auditeurs que nous allons parler de l'enseignement très bientôt. Nous devons féliciter, en tout cas, les professeurs qui sont en train de donner cours à nos enfants. Il y a l'Université catholique de Bukavu. Il y a l'Université officielle de Bukavu, il y a l'Université évangélique en Afrique centrale. En tout cas, kule biko bana somesha batoto yetu bana bafundisha mzuri sana, et des spécialistes dans tous les domaines de la médecine. Certains sont partis en Europe, d'autres dans des universités pour poursuivre leurs études. Ils reviennent à l'hôpital général provincial de référence de Bukavu. D'autres sont à l'hôpital, comme on appelle, clinique Mwanzi. D'autres sont à l'hôpital de Panzi. Et dans d'autres hôpitaux, en tout cas, ce sont des jeunes spécialiste dans tous les domaines. Si vous allez dans ces hôpitaux là-bas, que ce soit aux cliniques Mwanzi, que ce soit à l'hôpital général de référence de Bukavu ou à l'hôpital de Panzi, vous trouverez des jeunes qui ont fini à l'UCB, à l'IOB, à l'UEA et qui soignent très bien le malade, également dans les domaines des droits, dans tous les domaines là-bas. Bon, malheureusement, la guerre est en train de tout fragiliser, mais en tout cas, nous ne pouvons pas nous plaindre et dire que notre enseignement au niveau supérieur est au rabais ici, parce que nous avons des exemples. Dany venait d'être soigné. Ce n'est pas comme à l'époque, wakati unenda tunziwa ni muzungu njo alikuwa anakutunza. C'était le blanc hein, à l'époque. Mais aujourd'hui, on a des enfants du quartier, les fils de tel et de tel, hein, qui a fini à l'UEA, qui a fini à l'UCB, hein, à l'IOB, et qui vous soigne. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Dany Bashige. Nous allons accueillir dans ce studio les professeurs ordinaires à l'Université officielle de Bukavu. Il s'appelle Philippe Kaganda Doudou. Il est également enseignant à l'Université évangélique en Afrique, à l'UEA. Il est directeur scientifique du Centre de recherche et d'études sur les conflits et la paix dans la région des Grands Lacs. Et c'est à ce titre que, d'ailleurs, nous l'invitons dans ces studios. Prof Doudou Kaganda, bonjour.
Oui, bonjour. Thaïs, bonjour à tous les amis que j'ai vus il y a très très longtemps. Paulet,
merci.
Et bonne convalescence.
Merci professeur.
Merci de m'avoir encore une fois invité. Ça fait longtemps que j'ai été dans ce studio parce que le périple a été long, de par nos obligations professionnelles et aussi sociales. Et donc, je pense qu'il est de notre responsabilité de dialoguer avec notre société à travers ce micro, à travers les ondes de la radio Maïndéléo.
Voilà, j'étais en train de vous féliciter, vous comme enseignant, vu les témoignages que Dany Bashige venait de nous donner. Il a été malade, il a fait 3 mois à l'hôpital provincial. Il a été soigné par des jeunes que vous avez formé ici et là. Et je disais, en tout cas, félicitations à vous comme enseignant, à l'UEA, à l'IOB, à l'UCB. En tout cas, on a de très bons enseignants à qui vous avez donné cours et qui sont devenus peut-être vos collègues professeurs. Merci.
Merci beaucoup. Merci pour ces compliments.
Merci. Voilà. Il faut rappeler que la rentrée scolaire, c'est après-demain, hein. C'est le premier, ça sera le mardi, et c'est communiqué officiel numéro 1, barre 054, barre CAB, barre GoPro-SK-2026. Dans la perspective d'assurer une rentrée scolaire apaisée pour l'année 2026-2027, Son Excellence M. Patrick Boussou-Bouangui Nshombo, gouverneur de province du Sud Kivu, convie les gestionnaires, promoteurs et chefs d'établissements publics et privés d'enseignement primaire, secondaire et technique à une séance de travail le lundi 31 août 2026, donc demain à 10h30, lieu, salle de spectacle du Collège Alpha Djiri. Au regard de l'importance de la question inscrite à l'ordre du jour, la présence de tous ainsi que le respect de l'heure revêt un caractère contraignant. Fait à Bukavu le 29 août 2026, Muganza Wakando Aladis, directeur de cabinet adjoint en charge des questions politiques, administratives et juridiques, directeur de cabinet ad interim. Nous allons dire aux gestionnaires de bien, en tout cas, profiter de cette occasion pour poser la question suite aux plaintes de certains directeurs et chefs d'établissement préfets qui disaient qu'on a exigé que désormais les écoles puissent payer les factures de la régie des eaux. Et beaucoup d'écoles et même des institutions sanitaires disposent de factures terribles hein, de la régie des eaux. En tout cas, c'est l'occasion ou jamais de poser la question au gouverneur de province et savoir comment cette question sera résolue. Parce que la fois passée, nous avons eu l'occasion de poser la question au gouverneur de province, Patrick Boussou-Wangui, et qui a dit que cette question était en étude. Mais comment c'est en étude, c'est au gestionnaire, en tout cas, de bien poser les problèmes et que, pour que les parents ne puissent pas être surpris. Parce que quand les factures sont envoyées dans des écoles, c'est pas l'école qui paye, c'est pas les, ce sont les parents, encore une fois, qui vont devoir payer. Je sais pas, Elia Bibou, vous êtes dans ce studio. Je profite justement de ces communiqués officiels invitant les gestionnaires à rencontrer l'autorité provinciale demain au collège Al-Fadjir à 10h30 pour évoquer ces problèmes. C'est une épine dans les souliers, en tout cas, de plusieurs préfets.
Bon, au fait, il y a beaucoup de problèmes dans des écoles, sûrement la question de l'eau, de l'électricité, ainsi de suite. Mais dans d'autres écoles aussi, il ne faut pas seulement les privilégier les chefs des établissements, ainsi de suite. Il faut privilégier aussi les parents. Je sais que dans beaucoup d'écoles ici, même je crois à l'EDAP, ainsi de suite, cette histoire-là des frais de confirmation. Un élève qui n'a fait que monter de classe dans votre école, comment vous exigez encore des frais de confirmation? Il va confirmer quoi? Moi, j'ai étudié. Coco, c'est mon collègue de l'école secondaire. Où est-ce qu'on parle des frais de confirmation? Alors que l'enfant n'a fait que monter de classe. C'était ça seulement son obligation. Je pense que le gouverneur de province pourra aussi marteler sur ça. Il ne faudrait pas que les écoles puissent rejeter les enfants puisqu'ils n'aiment pas confirmer les frais. Ils savent que les parents doivent payer, n'est-ce pas, les fournitures scolaires. Ils pourront payer les frais scolaires. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire, les frais de confirmation? Et donc, il y aura beaucoup de matières sur lesquelles son excellence, monsieur le gouverneur, va insister. Surtout que Muganza, qui est le directeur de cabinet à l'intérim, a déjà été ministre de l'EPST, et donc il connaît les rouages. Je crois que la réunion sera riche en couleurs.
Merci beaucoup, et ça ne se comprend pas du fait que l'arrêté...
Il y a même les faits qui ne sont pas autorisés, qui commencent à être payés, les uniformes, voilà. Où il y a des cachets, tout ça, il faut payer. Donc, je crois que l'arrêté du gouverneur pourra se faire respecter et va pouvoir les rappeler cet arrêté-là.
Oui, donc on ne peut pas demander aux parents de payer avant la réunion de l'école, parce que l'école doit réunir le comité des parents pour fixer le frais. Mais les frais ne sont pas encore fixés, c'est vrai, au niveau de la province. Les autorités ont fixé les maximums et les minimums. Il revient maintenant en comité de parents de fixer les frais à payer. Mais maintenant, comment on va commencer à demander la confirmation alors que dans aucune école où on a déjà payé, en tout cas fixé les frais? Idé Bakolo, bonjour.
Bonjour Thaïs. Bon, ça m'étonne que des questions comme ça reviennent, surtout en ce qui concerne le paiement de l'eau et de l'électricité dans les écoles publiques et même dans les écoles privées. En effet, depuis que nous sommes nés, depuis je crois les débuts de la République démocratique du Congo, et même avant, c'est le cas dans tous les autres pays du monde, l'eau et l'électricité dans les écoles sont prises en charge par l'État à travers le ministère du budget dans ce qu'on appelle les charges communes. C'est-à-dire que c'est l'État qui paye l'eau et l'électricité dans les écoles. Pourquoi l'État paye l'eau? C'est pour, effectivement, préserver les enfants contre les maladies. Ça m'étonne qu'il y ait ce bruit-là. Je ne sais pas si le bruit est juste, s'il est officiel, s'il est vrai. Mais en principe, c'est l'État qui prend en charge l'eau et l'électricité. Il se fait maintenant que, depuis très longtemps, la régie des eaux, c'est la Mante. Que non, l'État ne paye pas. Malgré que c'est prévu dans tous les budgets qu'on a, notamment, peut-être pas ici maintenant, dans les conditions actuelles, mais ça a toujours été prévu, la prise en charge de l'eau et de l'électricité dans les budgets de l'État. C'est toutes les années, chaque année, on doit... Maintenant, il arrive... Non, c'est souvent. L'État ne paye pas. Il en est de même pour toutes les maisons de l'État qui sont ici.
Dans les camps militaires aussi.
Dans les camps militaires aussi. Mais l'État ne paye pas. et la régie des eaux se lamentent toujours. Mais l'État a toujours eu un argument qui balance un peu la régie des eaux. Parce que voyez-vous, la régie des eaux se lamente que l'État ne paye pas les factures. Mais en plus, l'État leur rétorque, non, vous, la régie des eaux, c'est nous qui payons tous les investissements. Tous les investissements pour élargir les réseaux, pour renouveler les réseaux. C'est toujours l'État qui intervient. Alors que l'entreprise Régie des eaux aujourd'hui est dotée de la personnalité juridique. C'est une entreprise, c'est une SA aujourd'hui. C'est une société anonyme. C'est-à-dire une société qui doit supporter ses charges. Mais l'État, à travers, encore une fois, il faut le dire, l'État aussi souvent n'intervient pas à travers le budget national. L'État intervient à travers des coopérations avec la Banque mondiale, avec l'Union européenne, avec
le CICR.
Bon, si vous voyez très bien, il y a très longtemps que c'est le CICR qui donne les intrants à la Régie des eaux ici à Bukavu, depuis
mais,
très longtemps.
Mais c'est à travers l'État.
Bon, c'est vrai, c'est à travers ce mécanisme-là de l'État.
De coopération.
Mais il y a des choses qu'on doit dépasser.
Humanitaire.
Si les intrants dans une grande entreprise comme la Régie des eaux, si les intrants doivent être, des dons, c'est très grave, parce que de toute façon, à un certain moment, on n'aura pas le CICR. Aujourd'hui, les aides sont en train de s'effriter terriblement avec l'arrêt de l'USAID. Aujourd'hui, les aides, il n'y en a presque plus. Donc, la Régie des eaux et l'État doivent chercher le mécanisme par lequel ils vont faire en sorte que les écoles soient toujours exonérées de cette charge-là. Les écoles fixent le Minerval, c'est vrai. Est-ce que dans le Minerval, on y inclut les frais pour les charges de la Régie des eaux, de la SNEL? Non, ça c'est pris en compte. Ça c'est pris en charge par l'État. Est-ce que ça va commencer ici? Je ne sais pas. Mais il ne faut pas ouvrir cette brèche, en tout cas. Pour moi, il ne faudrait pas ouvrir cette brèche. Sinon, cette brèche va nous coûter très cher.
Oui,
la première chose, les factures de la Régie des eaux ne sont pas fixes. Aujourd'hui, vous avez consommé 10 mètres cubes, demain, vous pouvez en consommer 100. Maintenant, quel est le mécanisme par lequel on va commencer à payer? Chaque mois, on va dire aux parents, payez autant pour la Régie des eaux. On risque d'avoir des problèmes qu'on va gérer très difficilement. Très très difficilement. Ça va même amener des revendications dans des écoles.
Ide Bakolo, je vais vous dire que c'est depuis les débuts de l'année, de cette année, que la Régie des eaux est en train de déposer des factures de consommation d'eau dans des écoles. Et c'est terrible, surtout dans des écoles où il y a des camps de professeurs, là où il y a l'internat. Il y a l'école. Donc, la Régie des eaux envoie la facture pour le camp des enseignants, envoie la facture pour l'école, envoie la facture pour les hommes ou l'internat des élèves. J'ai vu dans une école où le seul mois, je crois, c'était en avril ou mai, c'était une facture de 5 millions de francs congolais que l'école devait payer. Il y a une facture de 1 million 500, l'autre de 3 millions, de 3 millions. En tout cas, si vous calculez le tout, c'est environ 5 millions de francs que l'école doit payer à la Régie des eaux. Et puis, on a constaté que le mètre cube a apparemment augmenté de prix. Hein. Ce n'est plus la facturation d'il y a une année que l'on utilise. Malheureusement, quand la Régie des eaux nous envoie des factures, nous ne vérifions pas les coûts par mètre cube. Mais en tout cas, j'ai comme l'impression qu'on a augmenté quelque chose. Bon, et vous comme économiste, vous comme leader d'opinion, c'est à vous d'aider la population.
L'État a une mercuriale pour le paiement de l'eau. L'État fixe le mercurial pour le paiement de l'eau par mètre cube. Donc, la facturation de l'eau n'est pas une facturation, forfaitaire. C'est pas forfaitaire. Donc, l'État fait en sorte, parce que aussi l'eau est maintenant privatisée Donc la commercialisation de l'eau, même la production, la distribution, toutes ces tâches-là sont aujourd'hui privatisées. Et pour que les gens n'abusent pas, l'État a mis une mercuriale. Tout cela est connu. Donc, effectivement, nous n'avons pas l'habitude de vérifier sur nos factures la facturation du mètre cube. Souvent, tu as la facture aujourd'hui de 100 000 francs congolais. Demain, on peut venir avec 300 000. Et quand vous allez à la Régie des eaux réclamer, on vous dit ce qu'ils peuvent vous dire. Mais il faut vraiment que nous sachions que...
Il faut aussi respecter les délais de réclamation.
Oui, il faut respecter les délais de réclamation. Il faut aussi payer l'eau. Mais ouais. Pour les écoles, la Régie des eaux ne va pas... ne va pas faire payer
voilà.
Les écoles, les faiblesses de l'État.
Merci beaucoup aux gestionnaires.
On va en parler tout à l'heure.
Merci.
Pourquoi les élèves devraient être des victimes expiatoires de la faiblesse de l'État?
D'accord.
Pourquoi?
Voilà. Je rappelle que demain, le gouverneur de province, en prévision de la rentrée scolaire apaisée, le gouverneur de province invite les gestionnaires, les promoteurs des écoles privées et agréées, les chefs d'établissement public et privés d'enseignement primaire, secondaire et technique à une séance de travail demain lundi 31 août 2026 à 10h30. C'est dans la salle des spectacles du collège Alpha Djiri. C'est à vous, en tout cas, d'argumenter, chers gestionnaires. Je crois que les préfets qui vivent cette question peuvent vous donner de plus amples informations, surtout en ce qui concerne la Régie des eaux, de peur que cette charge ne revienne demain aux parents pour que la prime puisse rentrer d'une autre manière. Voilà. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a ordonné en août 2026 la suspension immédiate des rémunérations et la désactivation des listings de paye de 48 agents du secteur de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Les raisons de la suspension, cette sanction administrative radicale cible individuellement des professeurs, chefs de travaux et assistants. Le pouvoir de Kinshasa les accuse d'avoir prêté allégeance à la FCM23 ou d'avoir accepté des nominations pour diriger des universités publiques au sein des zones sous contrôle rebelle. Ces nominations, annoncées début août 2026 par les autorités de facto de la FCM23, ont été déclarées nulles et sans effet par l'État congolais. La mesure touche le personnel académique des 11 établissements publics situés principalement à Goma, Nord Kivu et Bukavu, Sud Kivu. À Goma, il s'agit de l'UNIGOM, l'ISC Goma, ISTAM Goma, ISTA Goma et ISP Goma. À Bukavu, Université officielle de Bukavu Yobe, ISC Bukavu, ISTAM Bukavu, ISP Bukavu, ISDER Bukavu et ISAM Bukavu. Cette coupure de salaire s'inscrit dans une série de décisions strictes prises par la ministre de l'Enseignement supérieur, Universitaire, Recherche scientifique et Innovation, la prof Dr Sombo Ayane Safi Mukuna Marie-Thérèse. Alors, elle suspend également les cours, la suspension totale jusqu'à nouvel ordre des activités académiques dans les zones de conflit. Et il y a aussi la non-reconnaissance des diplômes. Kinshasa refuse toute légitimité au titre ou diplôme qui serait délivré sous l'administration de la FCM23. Il y a aussi une note circulaire qui enjoint aux établissements des zones sécurisées de faciliter l'accueil des étudiants déplacés, notamment en médecine, et les finalistes pour leur permettre d'achever leur cursus. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ça signifie que si vous allez dans une zone sécurisée, on peut vous faciliter de vous accueillir. Alors, la réaction officielle de la FCM23 suite à la suspension des activités académiques par Kinshasa est un rejet total de la décision qu'elle qualifie de nulle, sans effet arbitraire et responsable. Cette fermeture ordonnée le 20 août 2026 par le gouvernement congolais dans 11 universités publiques de Goma et Bukavu fait suite au rejet par Kinshasa des nominations unilatérales des comités de gestion effectués par l'AFC M23 au sein de ces institutions. L'AFC M23 soutient qu'aucun étudiant ne devrait avoir son avenir ou son année académique sacrifiée en raison du conflit politique et militaire actuel. Le mouvement affirme que cette décision de Kinshasa viole délibérément les droits à l'éducation, alors même que des pourparlers de paix se tiennent en parallèle à Doha. Face à la radiation par le gouvernement central des listings de paix de 48 professeurs et assistants ayant accepté des postes proposés par la rébellion, l'AFCM 23 s'est engagée à couvrir elle-même les frais et la prise en charge financière de ses personnels académiques. Voilà, nous sommes dans ces studios avec les invités, chers auditeurs. Nous allons essayer de prendre leur point de vue en commençant par Elie Habibou, au-delà d'être un acteur politique, c'est aussi un universitaire qui a longtemps donné cours dans des universités, ici à Bukavu. Elie Habibou, votre réaction par rapport à ce coup de gueule entre Kinshasa et l'AFCM 23?
En fait, j'ai dit comme notre coordination a dit, c'est irresponsable. D'abord, vous comme Kinshasa, vous venez de délivrer des diplômes d'État à travers l'UNESCO sans doute aux élèves qui viennent de finir l'année, et puis vous supprimez les activités académiques dans des universités. Là, c'est irresponsable. Je connais les problèmes au fond. Nous étions ici, il y a une question de quotité dans des universités. Il y a des comités de gestion qui étaient incomplets. Et ces mêmes professeurs, directeur général, recteur, ainsi de suite, ils étaient à Kinshasa. Ils continuaient à toucher ce qu'on appelle chez eux les frais de transport, alors que cela devait être touché que quand on est prestateur. Et tout ça, nous, à notre niveau, nous avons dit que ce n'était pas normal. Je connais les Moudinga, ainsi de suite, tous, ils touchaient l'argent, puisqu'ils étaient DG de l'ISDR. Alors quand on a remplacé ces comités de gestion, en tout cas, on a fait une rupture avec ce système-là, puisque ça c'était du vol. Mais est-il vrai que l'enseignement universitaire, c'est pas politique, c'est apolitique? Pourquoi on doit lier les politiques à ce qui, la guerre, à ce qui est enseignement universel? Là, c'est vraiment irresponsable. Mais moi, je crois que, en ce qui nous concerne, cette décision est nulle, est de nul effet. Et l'AFCM 23 prendra ses responsabilités. Et l'AFCM 23 prendra la communauté internationale à témoin qu'effectivement, le gouvernement de Kinshasa n'est pas sur le chemin de la résolution de ces conflits. Que le gouvernement de Tshisekedi n'est pas sur le chemin de la paix. Je me dis pourquoi il ne s'est pas gagné la guerre, il ne s'est pas gagné sur le plan diplomatique, il ne s'est pas gagné sur le plan politique, mais maintenant sa colère va retomber sur les étudiants, les professeurs, ainsi de suite. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un secteur qui devrait être mis en dehors. Moi, j'ai étudié pendant la période du RCD. Je crois, et puis Max, toi aussi, non?
Oui, on a étudié.
Même Doudou Kaganda ici. Nous avons étudié sous la période du RCD. Nous avons eu nos diplômes. Nous avons eu nos attestations de réussite. Et ce sont ces attestations de réussite qui nous ont même permis de commencer à travailler. On n'avait même pas de diplôme de Kinshasa homologué, ainsi de suite. Et donc, ici est l'occasion de rassurer tous les parents, tous les étudiants, que dans les zones libérées par l'AFCM 23, les activités académiques vont se porter en bonne et due forme. Ce sera sans faille. Et donc, que Félix, demain ou après-demain, il pourra peut-être même reconnaître les grades militaires. Donc même les grades académiques, il pourra les reconnaître. Ça ne dépend pas de sa volonté. Même l'UNESCO connaît que, effectivement, le droit à l'éducation est garanti sur le plan international. Je sais que peut-être Coco pourra me compléter. C'est garanti même sur le plan international. Les diplômes qui seront délivrés dans les zones libérées auront la validité et les détenteurs pourront en jouir en bonne et due forme, comme d'ailleurs dans la formule de collation des grades sera, oui, est inscrite.
Elie Habibou, vous permettez que, justement, bon, Le discours que vous êtes en train de tenir, justement, c'est le discours de l'AFCM 23. Comme on l'a dit, l'AFCM 23 dit que ils vont couvrir, l'AFC va couvrir elle-même les frais et la prise en charge financière de ses personnels académiques, donc pour les 48 professeurs et assistants. Mais est-ce que cela a été prévu dans votre budget pour rassurer vite les parents? Est-ce que c'est pas un, c'est un coup dur, hein? Est-ce que vous avez prévu ça dans le budget? Parce qu'on travaille avec le budget. Bon, et aussi, comment ça va se passer concrètement? Parce qu'il n'y a pas que ces 48 professeurs et assistants ou chefs de travaux qui donnent cours. Il y a toute une équipe dans une... C'est comme à l'ISDR ou à l'IOB. Il y a toute une équipe des administratifs, le personnel administratif. Alors, si vous vous décidez avec la parole, c'est que vous, les assurances que vous donnez, ces gens acceptent de commencer les inscriptions et de commencer le cours. Kinshasa va élargir ses sanctions sur le personnel qui reste. Et donc, ne voyez pas seulement les 48 professeurs, assistants et chefs de travaux. Voyez aussi tout le personnel qui est pris en charge par Kinshasa. Et donc, si ces gens osaient reprendre les activités, Kinshasa va élargir ses sanctions et vous serez submergé. Et moi, je suis en train de me poser la question, est-ce que cela a été prévu dans les budgets?
Vous savez, les budgets, on a
parce qu'il faut anticiper.
Les budgets, c'est toujours un projet, n'est-ce pas? Et donc, face à des situations, il y a toujours moyen de pouvoir prendre ces budgets-là et voir quels sont les autres aspects à tenir en compte. Et, mais moi, je me dis, je crois au niveau de l'AFCM 23, nous, c'est la flexibilité. Hein? C'est qu'avec la flexibilité, c'est possible qu'on puisse vraiment trouver un mécanisme pour essayer un peu de régler cette question-là. Sachez très bien qu'à l'AFCM 23, on fait la guerre, on fait le développement, mais Kinshasa veut la balkanisation. Puisque déjà, quand vous rentrez dans les domaines de l'éducation, donc ça veut dire que vous êtes dans la soudanisation, tout simplement. Oui. Donc, mais nous, à notre niveau.
Sans comprendre, Eli.
Je ne vous cache pas.
Sans comprendre,
Eli. Déjà, au niveau des feux,
nous voulons avoir les pieds sur terre et parler concrètement comment cela va se passer. Font pas que vous exposiez les personnels ouvriers, parce qu'il y a des ouvriers, il y a tout le personnel administratif payé par Kinshasa. Et les sanctions données, ça commençait par les 48 professeurs, assistants et chefs de travaux. Alors, Kinshasa demande à ce qu'on ne puisse pas organiser les inscriptions, donc que les activités académiques ne se tiennent pas. Mais vous vous rassurez, vous dites que vous allez payer. Bon, on a précisé pour les 48 professeurs assistants qui ont été nommés. Mais maintenant, il y a d'autres personnes. Si ces gens là-bas désobéissaient à Kinshasa, la ministre va sortir un autre document pour les désactiver. Moi, est-ce que vous ne pensez pas que vous risquez d'être
submergé? Je pense que si Félix était intelligent, il devrait déjà démettre sa ministre là. Et donc, Félix vient de nous donner une autre raison de la guerre. Une autre. Et un autre élément à inscrire dans les différentes négociations que nous sommes en train de mener à gauche et à droite. Et donc, cette question désormais elle devient aussi une question cruciale à placer sur l'agenda de nos négociations. Puisqu'il est anormal que nous puissions être sur une table de négociation, que vous continuez à poser des problèmes, et en plus des problèmes qui touchent les sociales, qui touchent la société. Vous deviez poser des problèmes, puisque nous avons un agenda de négociation, mais lui, il augmente un autre problème au-dessus des problèmes que nous, sur lesquels nous sommes en train d'établir. Mais je vous dis, il va continuer, il a fait des sanctions et des sanctions. Peut-être demain, il va voir même tous les autres agents de l'État, ainsi de suite. Mais est-ce que ça, c'est responsable de sa part? Mais à ce qui concerne l'AFCM 23, je ne vous cache pas, nous trouverons toujours des solutions qu'il puisse sanctionner. Nous aussi, nous allons les sanctionner.
D'accord.
D'une autre part.
Merci.
C'est ça la vérité. Donc, il y aura réciprocité des sanctions. Donc, lui, il nous sanctionne. Nous aussi, nous avons la possibilité de les sanctionner. Il a sanctionné en fermant les banques. Est-ce que les gens de Bukavu sont morts? Non. Nous sommes toujours résilients. Nous sommes là, nous vivons. On ferme les aéroports. Nous sommes là, nous vivons. Et donc, je pense que effectivement, à l'AFCM23, nous trouverons toujours des solutions à chaque problème que Félix Tshisekedi nous posera. Que ce soit sur les plans militaires, que ce soit sur les plans politiques, que ce soit sur les plans économiques, que ce soit sur les plans financiers, que ce soit sur les plans social et culturel, nous trouverons toujours des solutions par nous avons des hommes responsables, nous avons une coordination assise et qui essaie un peu de réfléchir à temps réel pour trouver des solutions à chaque problème.
D'accord. Avant que je donne la parole au prof Doudou, qui est enseignant, je voudrais un peu réfléchir avec Idé Bakoulou, qui a travaillé au gouvernement et qui connaît comment ce genre de choses se gèrent sur le plan financier. Kinshasa prend la mesure, l'AFCM23 promet de résoudre, mais est-ce que vous pensez que ça sera facile? Désactiver quelqu'un sur le listing, ça s'est fait parfois par mégarde, parfois on commet des erreurs à part Kinshasa, on peut vous désactiver. Mais maintenant vous remettre, ça ne prend pas moins d'une année, ou d'une année et demie, ou de 6 mois à Kinshasa. Vous retrouvez sur la liste des payés à Kinshasa, c'est une grande lutte. Mais maintenant, quand on vous désactive comme ça, c'est pas facile de vous remettre. Bon, vous vous rassurez, les amis de l'AFCM23 rassurent, mais c'est pas quel est votre point de vue, Idé Bakoulou.
Bon, le listing là, quand on vous omet, c'est sur le plan administratif. Mais la question ici, c'est une question politique. Une question politique qui peut être prise, donc la décision peut être prise maintenant, et être contredite, ou plutôt être
rectifiée
le soir. Donc, ça c'est une question politique. Et je crois que ça va se régler dans ce qu'ils sont en train de faire, les négociations et tout ça. Mais moi, j'ai quand même beaucoup d'inquiétudes. C'est pour ça que je vous remercie de m'avoir donné la parole avant Doudou qui est dans le secteur. J'ai quand même des questions qui me taraudent un peu les nerfs. Hein. La validité d'un diplôme dépend de quoi? Est-ce que c'est le contenu du programme scolaire ou universitaire? Ou ça dépend des dirigeants, ceux qui dirigent les universités. Je voudrais vraiment savoir comment ça se fait. Parce que, bon, s'il y a eu des professeurs qui ont été remplacés ici parce qu'ils sont ailleurs ou comment, s'il y a des profs qui ont été remplacés ici, quelle est l'incidence, quel est le... comment je voudrais dire?
L'impact.
Quel est l'impact
Sur le plan
académique, scientifique et consort. Quel est l'impact? Il faut qu'on nous dise cet impact pour qu'on nous dise que les diplômes ne seront pas
parce que les cours ne non
si
non.
Les cours sont les mêmes ou, si les cours sont les mêmes
ou ont été donnés dans les mêmes conditions
oui dans les mêmes conditions quel est l'impact parce que moi je me rappelle il y a quelque temps il y a une université de Bouéndé je crois, dans l'ancien Équateur, qui faisait l'état des lieux de son administration, où le recteur n'était jamais arrivé depuis sa nomination. Ils ont donné toute une série de... Et à la fin, ils ont dit, si c'est l'administratif ou je ne sais pas quoi, il n'a jamais étudié. Donc, dans une université, on a nommé quelqu'un qui n'avait même pas de diplôme d'État. Et je ne sais pas le cas ici. Ceux qui ont été nommés, ont quel niveau pour qu'une décision comme celle-là soit prise?
Bon, ce sont des professeurs. Et beaucoup d'ailleurs sont des victimes parce que beaucoup n'avaient jamais sollicité d'être nommés à des postes. D'autres ont été confirmés. Et d'autres n'ont jamais même été en allégeance avec l'AFCM23. Ils n'ont jamais été en formation. Ils n'avaient jamais été en formation. Il y a des vieux que je connais qui se sont retrouvés sur les nominations de l'AFCM23 alors qu'ils n'ont jamais quitté Bukavu. Ils n'ont jamais demandé, en fait.
Seulement l'ISP.
Ils ont été promis par leur expérience, et ils ont des titres académiques, sont des professeurs ou des chefs de travaux. Bon, malheureusement, leur décision porte la signature de l'AFCN 23, tout simplement.
C'est vraiment un problème. C'est ce qu'on disait encore tout à l'heure pour la régie des eaux. Parce que tout simplement, l'État a failli à sa mission de payer l'eau et l'électricité. On veut faire porter la charge aux élèves et aux parents. C'est la même chose ici. Les étudiants, les pauvres étudiants des institutions supérieures et universitaires ici, comme moi ici, comme Doudou, comme vous-même, l'AFCM 23 nous a trouvés ici. Nous ne sommes pas allés chercher l'AFCM 23. Les pauvres étudiants là ne sont pas allés chercher l'AFCM 23. L'AFCM 23 est arrivé ici et ils étaient là. Alors, ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants de cette guerre. Ils sont victimes comme nous tous. Maintenant, on veut les victimiser encore davantage. Je ne sais pas. Je suis en train de faire une réflexion à soumettre à nos députés pour qu'ils se penchent sur la question. Est-ce que Madame la ministre connaît aujourd'hui le nombre d'étudiants qui sont frappés par cette mesure? Les nombres, ne fût-ce que les nombres, voire le total des personnes qui sont frappées par cette histoire ici. En plus de cela, donc là ce sont les étudiants qui sont déjà dans ces institutions. Le nombre d'élèves, comme l'a dit Elie, le nombre d'élèves qui viennent d'avoir leur diplôme, qui n'attendent que aller à l'université. Comment est-ce qu'une décision politique peut venir perturber toute la vie? Parce que rater une année académique pour la récupérer, ce n'est pas.
Mais qui a commencé? C'est l'AFCM 23 qui a commencé. Pourquoi l'AFCM 23 ne pouvait pas laisser la situation comme ça? Ils sont en négociation. Bon.
Voilà, c'est une très très bonne question.
Prendre cette décision en cette période, on devait s'attendre à la réaction de Kinshasa.
C'est une très très bonne question. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est ailleurs que j'avais dit que l'AFCM 23, en nommant les autorités du comité de gestion que c'était une erreur. Moi, je l'avais dit. C'était une erreur. Il ne fallait pas, à ce moment ici. Mais c'est plus grave ce qui est arrivé par la suite. C'est très grave ce qui est arrivé par la suite. En fait, j'ai comme l'impression que au niveau de Kinshasa, on se comporte en rebelle par rapport à ici. Tout ce qui est fait ici, il faut frapper sans voir les conséquences de ce que... Le gouvernement, déjà avec la suspension de la paix de nos professeurs, c'était déjà une mesure. Bien que là aussi, il faut voir au cas par cas. Moi, je connais quelqu'un que j'avais appelé quand ils avaient été nommés. Il m'a dit, mais mon cher, moi aussi, j'ai été surpris de voir qu'on était en train de changer le comité de gestion. Donc, lui-même a été surpris de voir qu'il est sur une liste ou sur une liste, d'abord qu'on changeait le comité de gestion, et que lui soit là, parce qu'il n'avait pas été consulté. Je crois que parce qu'il était déjà là, dans le comité de gestion, je crois que c'est pour cela que l'AFCM 23 a pensé que non, c'est il ne va pas refuser. Mais c'est des choses à voir au cas par cas. Au cas par cas. Pourquoi, tout d'un coup comme ça, vous invalidez, c'est pas 40 combien de professeurs?
48
professeurs.
Non, mais j'ai vu une autre liste. Hein. Apparemment, on a ajouté d'autres personnes.
Ah, voilà. On en a ajouté d'autres. Vous avez, dans l'annonce du sujet, vous avez dit que nous allons parler aussi du dialogue. Je crois qu'on va y arriver. Donc, les sources, les causes des violences, sont nombreuses. Hein. Doudou, quand vous l'avez présenté en dernier lieu, il est directeur scientifique d'une organisation d'un centre de recherche d'études sur les conflits et la paix dans la région des Grands Lacs. Tout cela fait partie des sources des violences et des conflits. Donc, moi je pense que chacun devrait mettre de l'eau dans son vin. Les étudiants ne doivent pas être des victimes, hein, expiatoires de notre, de nos faiblesses.
Ça c'est le souhait, ça c'est mon souhait. Mais ça sera résolu à quel niveau?
Non, au niveau de Kinshasa. Un, la question que j'ai posée à Doudou, je veux vraiment avoir une réponse. Qu'est-ce qui valide un diplôme? Qu'est-ce qui valide un diplôme? Est-ce que ce sont les têtes des institutions ou bien c'est le programme qu'on a?
D'accord.
Pour une faculté.
Donnons la parole au prof.
Vraiment, à Kinshasa, il faut que.
L'on trouve des solutions.
Non, il faut absolument sursoir cette décision de dire que les étudiants ne vont pas étudier.
Voilà. Prof Doudou, c'est vous le sommet des réflexions. Je me dis que ça vous gêne aussi dans les couloirs des universités, ça fait la une.
Bon, d'abord il faut vous dire que participer à une émission comme celle-ci autour de ces sujets relève d'un courage exceptionnel. Et sûrement que nombreux collègues qui me suivent ont les mains sur la tête en se disant c'est probablement le prochain, parce que la liste est ouverte, elle est continue. Mais je voudrais m'inviter personnellement à sortir de la charge émotionnelle pour faire une réflexion, en espérant que probablement on peut être compris, parce que même lorsque on est dans un état de facto, comme on dit, pour emprunter les mots à Foucault, il y a lieu que les acteurs, j'en vois des courageux comme mon ami Idé, qui peuvent prendre les risques de parler à tout moment, malgré les contextes, parce qu'il peut, il croit en sa citoyenneté en chaque circonstance. Et je crois que c'est très important. Et Mahendele aussi, qui fait son boulot malgré les circonstances. Et donc, je vais essayer de réfléchir, et en me disant que je ne peux pas me permettre d'aborder la portée ou la pertinence de la décision de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je ne peux pas prendre ces risques. Mais au moins, je peux aisément discuter les conséquences telles que je le vois, et vous veniez déjà d'en invoquer certaines. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi de poser les bases de ma réflexion. Je partirai de la question de idée. Sur quoi tient un diplôme? En fait, un diplôme, c'est un symbole. C'est pas le papier.
C'est ça.
Un diplôme, c'est un symbole. Et ce symbole est rattaché à un autre, c'est-à-dire l'État. Et comme on dit, il y a un collègue qui parlait, le prof Maïndo, qui parlait il y a quelque temps de la mystique de la Constitution. Il y a aussi la mystique de l'État. C'est la domination légitime. Donc nous acceptons d'être dominés par une structure, une institution, méga-institution qu'on appelle l'État. Et que donc, un diplôme, permettez-moi de terminer.
Parce que nous ne sommes pas en période de non-État.
Je voudrais dire, est-ce que je peux terminer? Ça signifie que un diplôme qui n'est pas lié à un État n'en est pas un. Et alors, dans ces conditions, nous sommes dit, le champ, un autre principe est posé. c'est celui de l'apolitisme de structures éducatives. Et donc, ça signifie que on ne peut pas faire de milieux éducatifs le champ des jeux politiques. Et à ce point, justement, vous l'avez dit, je vous prends au mot, monsieur le directeur, eh bien, qui a commencé? C'est la bonne question, à mon avis. Et que donc, moi, je me rends compte dans le que le milieu universitaire sont apolitiques, c'est le principe qui est posé, le milieu éducatif, et tout ce que ces milieux éducatifs posent comme acte, c'est au nom d'un État. Pas au nom d'une révolution, grande soit-elle, pour autant qu'elle ne s'est pas encore définie comme un État. Donc on ne peut pas délivrer un diplôme au nom de l'AFCM 23, non. Non plus on ne délivrera pas les diplômes au nom de l'UDPS, au nom de l'UNC, au nom... Non. C'est au nom d'un État. Et pour autant que l'AFCM 23 ne s'est pas encore défini comme, n'est pas défini, ces territoires qu'il contrôle, qu'il administre, ne sont pas définis comme un espace étatique, eh bien, ces diplômes peuvent avoir effet, non de valeur que lorsqu'ils sont rattachés à l'État légal et légitime, qu'on les conteste ou non. Ça, c'est une évidence. Et je constate, en réponse, si vous voulez, dans la continuité de votre question, de votre réaction d'ailleurs, il n'y a pas eu rupture. Ce que l'on a toujours décrié, ce que l'on a décrit, l'on a toujours décrié dans la gestion de l'enseignement supérieur universitaire, semble être aussi la continuité de l'AFCM 23 s'inscrit dans la même logique. Déjà, de par la loi, on ne peut pas nommer un DG, on ne peut pas nommer un recteur. Ça, c'est la loi. Même ce que fait, ce qui se passe, qu'a fait le gouvernement à Kinshasa, n'est pas ce qui est. Tous ces gens sont nommés à titre intérimaire, parce qu'un DG, un recteur doit être élu par ses pairs. Ça, c'est la loi. Et que donc, sur ce plan, l'AFCM 23 n'a pas fait de rupture. Alors qu'elle est s'appelle une révolution. La rupture serait de ne pas faire comme les autres. Parce que, en réalité, l'université ne doit pas être un espace de consommation, de trompe-l'œil des cadres hautement formés des partis politiques. Et donc, si quelqu'un est membre de l'AFCM 23, il veut, parce qu'il a un doctorat, oui, mais trouvez-moi du travail. On te nomme à l'université. Non. Ce n'est pas forcément un espace pour prendre des trop pleins, des cadres qu'on ne sait pas placer ici. Bon, va à l'université. Il en est de même du gouvernement. Parce que là aussi, c'est encore le cafouillage total quand il y a des nominations, ça passe par les autorités morales, etc. Donc, on devrait quand même opérer, il devait s'opérer une certaine rupture. Et donc, j'ai fini cette base de ma réflexion en convenant avec vous que le droit à l'éducation est garanti. Et qu'à partir, justement, de ces mesures, dont je me suis abstenu d'évaluer la portée, la pertinence, je constate qu'il y a des conséquences énormes. D'abord, des conséquences sur le plan individuel. La question de l'employabilité. Qui est employeur du fonctionnaire de l'État que je suis? C'est un État. Et d'ailleurs, j'ai oublié, quand on dit, mon ami Élie a dit, il a étudié, lui autant que moi, pendant la période de crise comme celle-ci. Il a obtenu son diplôme d'État en période de crise. Mais ça s'appelle diplôme d'État. Alors, quand le... Ça, c'est seulement...
Mais même ma licence...
C'est déjà assez significatif que tout autre diplôme qu'Idée a obtenu à l'UCB en économie, c'est toujours diplôme d'État de licence. Diplôme d'État, même si ce n'est pas... Non, ça doit être rattaché à un État et pas à une révolution. Et ça, c'est des choses qui ont une certaine évidence. Alors, en termes de que je parle d'employabilité, on est fonctionnaire d'un État. L'employeur de nous, les professeurs des universités publiques, est l'État, et il s'appelle l'État congolais, dont on est tous d'accord avec Elie et les autres membres de l'AFC-23, qu'il s'identifie comme congolais. Et que donc, cette mystique est là. On n'est pas dans un espace où on nous définit comme des apatrides. On appartient à un État. Et les fonctionnaires que nous sommes, notre employeur, c'est l'État congolais. Donc il y a des conséquences énormes comme ce que vient de subir les collègues. Deuxièmement, toujours sur le plan individuel, vous avez les étudiants, n'est-ce pas, qui vont voir leur cursus s'arrêter. Certains, parce que même si on donne des mesures, on dit ils vont aller ici et là, comment ils vont y aller? Et les autres disent, on va vous garantir, mais comment vous allez garantir? Le comment pose problème. Sur le plan institutionnel, quand je prends ces établissements-là, arrêter de fonctionner aujourd'hui, ça signifie quand même un véritable problème de reprise. Déjà, les universités dans lesquelles on les envoie, que ça soit, qu'on leur dit d'aller étudier, mais vous allez amener tous ces étudiants où? D'abord, les domaines, parfois, il n'y en a pas ici, etc. Les auditoires, on connaît leurs capacités, ainsi de suite. Alors, sur le plan, les enseignants, les étudiants, et maintenant, je dis sur le plan, là, au niveau de la société, pouvez-vous imaginer la désorganisation sociale que cela va créer? Ces nombres, ces milliers d'enfants, de jeunes, qui vont se retrouver dans la rue. Et moi, je pense qu'effectivement, le cri, il y a beaucoup de cris, il y a la société civile, je lis les documents des doyens de la société civile, les docteurs Denis Mukwege s'est exprimé là-dessus, les conseils urbains de la jeunesse aussi. Donc, il y a des cris à cause de conséquences liées à cette question. Et donc, les comportements des acteurs devraient être revus dans, même dans le contexte de conflit. D'accord. Il faut éviter, on devrait éviter des actes provocateurs qui touchent au social. Parce qu'il ne suffit pas seulement de voir quels sont, mais pourquoi l'acte provocateur a été posé dès lors qu'on n'en maîtrise pas les effets, les possibilités de... si vous voulez, les possibilités de reprise ou de rééquilibre du D'accord. système perturbé.
Et puis Marc, vous étiez en train de suivre avec moi le professeur, il a dit quelque chose d'important, il dit nous appartenons à un État. Et moi, quand j'ai vu la Coupe du Monde, j'ai vu des varèzes qui étaient portés non seulement ici mais aussi à Kinshasa. C'était des varèzes conçus avec des logos de Kinshasa, mais j'ai vu quand même que les autres ici de l'AFC-23, tout le monde ce sont les mêmes varèzes,
même, bon, même si... la lettre de nomination c'est vu la constitution de la République.
voilà. Donc on est attaché à l'État et que donc franchement tout acte qu'on peut poser de se demander est-ce que j'ai les mécanismes, est-ce que j'atteins la mystique de l'État pour éviter que les conséquences ne puissent être plus dévastatrices.
Nous avons le même drapeau. Que la... Vous parlez de la symbolique, nous avons
voilà, le même drapeau et qu'on sort.
La même monnaie.
Et donc, ne devrait pas poser des actes qui chatouillent l'État.
De toutes les façons, Epimac, si vous allez, vous envoyez votre enfant en Ouganda ou je ne sais où, aux États-Unis pour poursuivre ses études, on va lui demander un document signé par Kinshasa. Oui.
Bon, au fait...
comment ça va se résoudre?
Oui, merci beaucoup. En fait, j'ai bien suivi mon aîné, le prof Doudou, c'est mon aîné au CIB, avec Elie Abibou. Ce que l'État, tout ce qu'il a dit, je crois, je ne vais plus y revenir, et je crois il a dit la vérité. Seulement la question, Élie est intervenu disant, même les actes posés par l'M23, on dit, bon, vu la constitution, on n'a pas changé les drapeaux, c'est qu'ils doivent s'inscrire aussi dans la logique de l'État. Ils s'inscrivent aussi dans la logique de l'État congolais qu'ils doivent respecter. L'éducation ou l'enseignement relève du domaine de l'État. L'enseignement apolitique. Pourquoi le M23 a pris cet acte? Et ce n'est pas une provocation. Il savait que le gouvernement réagirait autrement. Mais non, est-ce qu'eux ont pensé à cela? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées derrière? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées derrière? Nous avons des institutions qui forment des étudiants. La ville de Bukavu et de Goma, nous avons des millions. Ils voudraient qu'on les ramène où? Qu'ils soient déçus, découragés et que ce soit une main d'œuvre disponible à exploiter, c'est peut-être possible. L'éducation, c'est la base de tout. C'est un droit de l'homme par excellence. Nous tous, nous parlons ici, nous sommes devant ces micros parce que nous avons été à l'école. Nous avons étudié. Nous avons quelque chose à dire. Nos cerveaux ont été bien formés. Maintenant que les autres, peut-être on va rompre avec les intellectuels dans cette province ou dans cette zone. C'est aussi possible. On va avoir une zone où il y a des têtes qui ne peuvent plus réfléchir. Parce qu'on ne sait pas, cette situation va prendre combien de temps. Si Kinshasa s'obstine, il dit, ok, la mesure reste. Le M23 s'obstine, il dit, il ne va pas revenir sur sa décision.
Oui, Kinshasa doit s'obstiner.
Oui, il est dans son droit.
Il est dans son droit. J'ai vu il y a trois jours la liste de qui continuait.
Oui.
Et même, je veux vous dire, connaissant Kinshasa, ceux qui vont aller à l'encontre de l'arrêté de la ministre, la liste va continuer. On va les désactiver aussi.
Tout à fait. Ce sont des agents de l'État.
Et maintenant, moi ma question, ça sera résolu à quel niveau?
Là où ça doit être résolu, c'est là où ça a commencé. Qui a commencé? Je crois que le M23 et le gouvernement de Kinshasa, ils sont dans le pourparlers à Doha. Ils doivent s'être fixés des limites d'agissement. Mais, bon, de l'un ou de l'autre côté, l'M23 ne respecte pas les clauses de leur discussion à Doha. Peut-être le gouvernement aussi traîne un peu les pieds. Maintenant, lui, il vient allumer les feux qui ne va pas éteindre. Tout ce qui peut trouver solution à cette question, c'est de rapporter cette décision. Nous remettre dans la situation antérieure et permettre aux universités de reprendre, les étudiants reprennent le chemin de l'école. Ça ne sert à rien de dire non, nous allons bousculer, ils vont bousculer jusqu'où? Ils n'auront pas de solution. Vous avez vous-même expliqué que, bon, déjà est-ce qu'ils sont en mesure de payer les professeurs qui ont été désactivés? Alors que mon ami Élie, je crois, il ne va pas me contredire, il n'est pas payé. Et s'il est payé, pardon, et s'il est payé, c'est dans des salaires aussi qui ne méritent même pas. Aussi, allons un peu plus loin. Les divisions qu'il élève de l'État. Non, je ne sais pas. Bon, je le saurai au sortir du studio ici. Parce que les divisions dans la zone sous contrôle, pourquoi les divisions ne fonctionnent pas? Vous voyez, ça c'est une question. Pourquoi les divisions ne fonctionnent pas? Les M23 devraient commencer par là. Relancer le fonctionnement des divisions, mais vous savez que c'est tout un panier de conteneurs d'agents qui ne peuvent pas payer. C'est pourquoi ils laissent les divisions en inertie. Alors que ce devrait être ça le premier signe du fonctionnement de l'administration dans la zone contrôlée par les M23. Ils n'ont pas fait. Qu'est-ce qui fonctionne? Ils font semblant de faire fonctionner les services qui génèrent les recettes.
Revenons à la question des universités.
Oui, maintenant, quand on rentre, j'y reviens. Vous voyez, là où ça va générer des ressources, c'est là où il met le doigt. Là où ça va créer une charge, une masse salariale, il ne touche pas. Alors, moi, je pense que c'est parce que dans les universités, on paye aussi la prime. Intéressante. C'est intéressant parce qu'il y a de l'argent. Le M23 dit, je veux voir ce qui se passe là-bas. Peut-être moi aussi, je vais me retrouver. Et puis, il nomme ses agents, ses fidèles, ses membres, qui vont l'aider à avoir une mainmise sur les universités sans peser les conséquences. Et puis, Kinshasa aussi, de son côté, il dit, ah, ce qu'ils s'immiscent dans les secteurs qui ne les concernaient pas. Et c'est comme cela. La désactivation de tous ces professeurs et autres agents, c'est parce que Kinshasa s'est dit, tous ces gens ont fait allégeance au M23, donc ce sont ses membres. Comme ce sont ses membres, moi je ne peux pas les avoir comme mes agents, les payer, et puis ils travaillent maintenant pour l'intérêt, les comptes d'un mouvement, d'un mouvement rebelle, qui fait la guerre avec moi. La réflexion de Kinshasa est logique. Quelqu'un...
Ils ne sont pas des rebelles.
Non, bon, le mouvement, c'est un mouvement rebelle.
Révolutionnaire.
Bon, vous l'appelez ainsi, mais c'est un mouvement, c'est la rébellion du M23, AFC M23.
La révolution du M23.
Ah bon, ça vous avez changé l'appellation. Ce que, au fait, l'État congolais ne devrait plus payer de ses anciens agents qui ont fait allégeance au mouvement. Ils ne devraient plus continuer à payer. Et même vous, vos enfants qui quittent votre maison, ils vont rester chez les voisins. Vous allez commencer à leur apporter la nourriture chez le voisin? Non, vous ne le ferez pas.
Si vous êtes responsable...
Non, vous ne le ferez pas. Là où ils sont, ils ont choisi d'aller, le toit dans lequel ils ont décidé de résider, c'est toi qui vas les abriter, les nourrir.
D'accord. C'est vrai que parfois, on n'aime pas que l'on parle de Kinshasa, mais il y a lieu d'interpeller en tout cas les élus qui sont à Kinshasa. Je crois qu'ils sont à côté des... Ils cohabitent avec la ministre qui a signé et les membres du gouvernement. C'était l'occasion vraiment ou jamais que les caucus, si ça existe encore, des députés nationaux du nord et du sud Kivu, rencontrent la ministre. Il suffit tout simplement que l'on demande aux uns et aux autres de rapporter leurs décisions. Les enfants vont continuer à étudier. Mais pourquoi déstabiliser? Pourquoi déstabiliser nos enfants? Ces professeurs, ces assistants, ces chefs de travaux qu'on a désactivés,
on va désactiver d'autres fois à mesure.
Alors, continuons à désactiver les gens. Où va aller cet argent, sachant que nous sommes dans une situation que nous n'avons pas voulu? Et parmi les 48, d'ailleurs la majorité sont des victimes. Sont des gens qui n'ont jamais été, en tout cas, la plupart que j'ai vu sur la liste là-bas, ce sont des professeurs, des chefs de travaux qui n'ont rien à faire avec l'AFCM23. D'ailleurs, certains ont été confirmés, ils étaient là depuis longtemps.
Oui, là, c'est vous qui
l'avez. Alors, oui, mais maintenant, vous voyez les élus qui sont à Kinshasa, ils se taisent. Hein? Et nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir, mais on ne voit pas d'où viendra la suite, d'où viendra la solution. Et puis, maintenant, est-ce que les élus n'ont pas quand même une part de responsabilité? Pourquoi on a élu en 2023, pourquoi on a élu les gens si nous devons nous retrouver dans une confusion totale au niveau du pays, au niveau de leur circonscription électorale, et qu'ils se taisent sans rien dire?
Qu'ont-ils déjà fait depuis que la guerre a commencé? Nos élus ont dit quoi? Vous les avez entendus parler? Ils n'ont jamais parlé. Ils sont là où ils sont, ils se complaisent. Peut-être aussi, ils attendent le mot d'ordre des autorités morales, entre guillemets. Parce que, vous savez, il suffit seulement de vous prononcer pour un oui ou pour un non. Vous émettez juste une réflexion. Déjà, l'autorité morale vous sanctionne. Vous voyez? Au fait, nous sommes dans une situation anodine et qui demanderait qu'il y ait des discussions sur presque tous les problèmes que rencontrent le pays.
Donc, je ne voudrais pas vraiment vous couper la parole, mais c'est quand même assez important ce qu'a dit le Thaïs. En fait, nous sommes dans une situation de fait. Nous n'en l'avons pas voulu.
Oui.
Et c'est déjà une si grande résilience que d'être ici.
Très vrai.
C'est ce qui justifie d'ailleurs que certains ne traînent pas, ils viennent, ils vous regardent deux jours, ils disparaissent. Parce que c'est pas toujours évident d'être dans un contexte d'incertitude permanente. Mais parlant des élus, effectivement, pour autant que nous restons l'État congolais, que les uns ont décidé de s'opposer, ils s'opposent à un gouvernement, c'est pas un État. Jusqu'à preuve du contraire, il disait qu'ils ont encore les drapeaux, l'hymne national, toute la symbolique de l'État congolais est là. et que donc c'est de leur devoir, à un certain niveau, d'aller poser des questions et d'entrevoir le mécanisme de négociation. C'est aussi possible. Parce qu'avec, par exemple, avec l'AFCM 23, l'État a pris des mesures comme ça, mais c'est vous qui avez provoqué. Mais qu'est-ce qu'on peut vous dire? Passer une négociation. Est-ce que vous pouvez reconsidérer vos mesures pour permettre à l'État de continuer à faire son travail?
Oui, prof.
Donc, ils ne sont pas hors jeu. Ils doivent, face à des questions pareilles, je parle bien des honorables
de nos députés.
Et ensuite, il y a tous les mécanismes. D'ailleurs, Elie l'a dit, mais malheureusement, on va en parler tantôt. C'est des mécanismes assez lents. Dans leurs espaces de négociation, c'est des questions qui devraient appeler à un échange rapide pour trouver rapidement une solution. Et se dire, oui, vous êtes, mais attention, ce sont des Congolais, voici comment vous devez faire.
Je reviens, prof, mais est-ce que par rapport à toute la situation que nous traversons, vous les avez un jour entendu parler? C'était ça ma préoccupation.
Et qui parlent à voix basse?
Non, ce n'est pas. C'est ça la grande question. Ils ne parlent pas, ils sont aphones. Alors que nous leur avons donné notre mandat, est-ce que c'est nous qui devons maintenant parler à leur place? Ils ne nous représentent pas valablement, ça admettons. Légalement, ils nous représentent, nous les avons élus, et d'autres, leur élection a été contestée. Mais comprenez que ces députés nous donnent aussi l'impression d'être pris en otage, parce qu'ils ne parlent pas.
Oui.
Et c'est là, maintenant, la grande question,
et puis Marc,
ça aurait été important.
Et puis Marc, je voudrais aussi nous responsabiliser,
oui,
nous comme société civile.
Oui.
J'ai vu la déclaration des doyens, ce qui est une bonne chose, leur
oui.
déclaration.
Oui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser quelque chose au niveau de la société civile et les rencontrer à Goma, les autorités de l'AFCM 23? Si j'ai vu que dans la déclaration de doyens de la société civile, la première décision, la première proposition, justement, ils demandent à l'AFCM 23 de retirer ses différentes nominations dans les différentes universités, de tout faire pour mettre hors champ politique l'éducation des jeunes. Cela pourrait rassurer la population de sa réelle volonté de vouloir la paix et le bien-être de tous. Au gouvernement de Kinshasa, de reconsidérer toutes ces décisions, dont la désactivation des salaires des personnes concernées, pour encourager les jeunes à rester attachés à la seule patrie que nous avons, et de considérer la souffrance des parents et des familles innocentes dans les zones occupées. Voilà, il y a les deux
recommandations.
Mais il faudrait que, je ne vois pas le gouvernement de Kinshasa en train de rapporter sa décision sans qu'il y ait une influence de quelque part.
Oui.
Je ne vois pas aussi les autorités de l'AFCM 23 fléchir sans une influence de quelque part. Je crois qu'on devait se réorganiser vite, vite, vous, au niveau de la société civile, que les amis qui sont ici et Goma s'organisent pour rencontrer les autorités de l'AFCM 23, que ceux qui sont à Kinshasa s'organisent également pour rencontrer la ministre et le gouvernement. Comme ça, on peut trouver des solutions avant le mois d'octobre, parce que les enfants doivent se faire inscrire. Il y a maintenant des communiqués qui passent des universités, on est en train d'inscrire les enfants. Mais c'est un processus qui sera interrompu parce qu'on est maintenant dans l'incertitude. On ne sait pas est-ce qu'il va ta Fungula, est-ce qu'il va ta Fungula. Et puis, déjà en ligne, il y a les diplômes qui sont en ligne, les
attestations de réussite.
Oui, qu'on est en train de récupérer. Ouais. Les profs Kagan disaient que c'est national.
Oui.
Ça vient encore une fois de Kinshasa.
Oui, oui, oui.
Donc, si on ne s'organise pas au niveau local, il n'y aura pas de solution, nous allons continuer à débattre jusqu'à demain, et il faudrait qu'il y ait des gens courageux qui s'organisent pour aller la rencontrer, parce que les gens de l'AFCM 23 sont des Congolais.
Absolument.
Hein? Et Kinshasa, c'est aussi des Congolais. Et qu'on les rencontre, qu'on s'organise au niveau de la société civile. Peut-être si les élus ont échoué, ils sont incapables, parce qu'ils craignent aussi que si peut-être ils sont opposés à la décision de Kinshasa, on peut dire qu'ils sont en allégeance avec l'AFCM 23.
Oui.
Mais au niveau de la société civile, on vous reconnaît, on reconnaît les autres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous organiser, hein, et d'aller rencontrer les autorités pour les pousser à rapporter les décisions prises?
Pour insérer, il faut éviter une chose. Il ne faut pas qu'on oppose les problèmes de souveraineté de ce pays à l'éducation de nos jeunes.
Tout à fait.
Pas parce que on dit ici c'est un problème de souveraineté, là-bas c'est la rébellion qui dirige, et que donc là-bas on peut attenter à l'avenir des jeunes.
Voilà.
On peut attenter à l'avenir des jeunes en suspendant les cours. Non, vraiment, il ne faut pas opposer les deux.
Voilà.
Il faut trouver un juste milieu entre les deux dans l'intérêt général des étudiants. Parce que c'est que ce qui est le plus important ici, c'est cette jeunesse, comme on a dit.
L'avenir de la nation.
Boudou a dit, par exemple, qu'est-ce qu'on pense de toute cette jeunesse qu'on veut laisser
dans la rue.
Dans la rue.
Au fait, les directeurs me poussent déjà à donner la stratégie qu'on était en train de penser. Ouais. Peut-être là, ils aussi vont de nos réflexions, des réflexions que nous sommes en train de mener au niveau de la société civile pour rencontrer les autorités du M23. Mais nous étions toujours en train de développer la réflexion. Si nous y allons, laquelle est la suite? Vous voyez? Parce que il y a toujours une crainte. Kinshasa a sa perception de la situation qu'il y a dans la zone ici. Vous voyez un peu? Les gens qui sont à Kinshasa, même ceux de la société civile, apparemment, ils donnent l'impression de ne pas se soucier de ce qui se passe ici. Ceux qui sont ici, bon, ils sont sous stress, vous voyez, une pression psychologique. Oui, les traumatismes, pas seulement nous, même vous, même Elie est stressé, traumatisé là où il est. Oui, on se connaît.
Non.
Au fait... Ça frappe tout le monde. Vous avez vu le prof Doudou, je le connais. Mais pourquoi il s'est réservé de se prononcer sur l'acte émis par les ministres? C'est aussi un problème. Alors que c'est un grand scientifique.
Il s'est prononcé techniquement. Non, vous intervenez politiquement.
Non,
c'est le problème.
Il s'est réservé de se prononcer sur l'acte. Vous voyez, c'est un problème. Bon, ce que nous qui sommes ici, méfiez-vous, nous ne sommes plus dans... dans nos états, nos anciens états mentaux. Ça a changé, ça a bougé, quelque chose a bougé. Mais nous, cela ne veut pas pour autant dire que nous avons cédé. Nous sommes chacun en train de développer des mécanismes de résilience.
Ne vous en faites pas, vous et moi, nous sommes plus indépendants que le prof Doudou.
Effectivement.
Parce qu'il est professeur.
Voilà.
Et il donne cours dans une institution de l'État.
Très vrai.
Il doit se réserver, c'est légitime.
Voilà.
Mais vous et moi,
voilà.
Vous et moi, nous n'avons pas le salaire de l'État.
Uh-huh.
Ce qui nous anime, c'est la défense des intérêts de la population. Et donc, nous pouvons agir, n'en déplaise à des personnes qui peuvent dire de n'importe quoi. Si on peut commencer au niveau provincial, je sais que si la société civile demandait l'audience auprès du gouverneur,
oui.
Comme il va le faire avec
les enseignants,
oui. Oui. On peut le et avec lui, je crois qu'il peut nous mettre en connexion avec sa hiérarchie à Goma,
oui.
Et on peut trouver des solutions parce que toute autorité avant de prendre une décision se réfère à quelque chose,
oui.
et puis l'AFCM23 ne peut pas se réveiller.
Et
dire voilà, nous retirons. Non, non, mais sur base d'un plaidoyer, peut-être que
exact.
La société civile l'a mené, la CM23 peut se baser sur ça pour retirer et ça va faire évoluer les choses.
Et puis, Marc, tu peux supporter une seconde.
Merci, bro.
C'est que je constate, en fait, hein,
oui.
Ce qu'on est en train de documenter aussi dans notre centre de recherche, j'y reviendrai parce qu'on va échanger avec vous.
Oui.
Une des erreurs de la société civile à l'heure actuelle, c'est d'éviter de rencontrer le pouvoir de fait. C'est un pouvoir qui a besoin d'une certaine légitimité, je vais dire d'une certaine acceptation. Et quand la société civile rencontre ce pouvoir de fait, soit-il, il peut obtenir des solutions aux problèmes de la société. Éviter la FCM23 pour le moment, c'est exposer la population pour laquelle vous avez accepté un mandat d'action neutre, d'action sans parti pris. Par contre, aussi, il y a une autre dimension, c'est vrai, je vous comprends. Vous êtes fragilisé par ceux qui ont quitté la ville, qui finalement font de vos actions leurs ressources.
et qui peuvent dire, non, voilà, mais, voyez, on nous, et ils sont là, nous, alors, on est ici.
Parce alors, et puis, alors, il y a d'autres qui ont fait allégeance. Mais alors,
si l'AFM23 est accepté par la communauté internationale...
Il n'est pas accepté.
S'il vous plaît.
Il est reconnu, mais n'est pas accepté.
C'est ça. On peut être reconnu sans être accepté.
Oui.
Non, mon cher ami. Oui. Utilisons les termes.
Oui, c'est...
Nous avons tous fait les bonnes...
C'est juridique.
J'ai dit... On est reconnu, pas oui, accepté.
Mais on n'est pas accepté.
Comment on peut être, on n'est pas accepté, mais on s'assoit sur une table de négociation dans des pays.
Dis-moi reconnaître.
Non, reconnaître, on sait que la FCM est là.
Là, tu as
entendu. Non.
Je pensais que tu allais
avec vous.
Effectivement,
un peu d'eau.
Tu allais me montrer qu'est-ce qui dit d'abord l'État. Selon toi, est-ce que l'État se sent du pouvoir public? Quel que tu es en train de
dire. Vous n'avez pas de parole. S'il vous plaît, vous n'avez pas de parole.
Je reconnais Élie comme une personne qui existe, qui vit. L'acceptation d'Élie, c'est autre chose. Vous comprenez un peu? C'est possible. Allons-y. On va discuter. On peut discuter après. Alors, mais dans l'autre temps, au niveau de la société civile.
J'étais en train de donner une orientation. Une orientation. Oui. Est-ce que c'est possible? Parce que nous étions en train de parler du rôle des élus. Les élus sont maintenant à Kinshasa, mais nous avons des problèmes ici, ils ne savent pas les résoudre.
Oui.
Et le temps passe, nos enfants doivent se faire inscrire. Moi j'ai posé la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen, comme il n'y a pas, certains élus sont à Uvira, à Bujumbura, les autres sont à Kinshasa, est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'organiser, est-ce qu'il n'y a plus de Bachamouka dans cette ville qui sont restés et qui peuvent rencontrer le gouverneur, et à travers le gouverneur, on sait aller à Goma, c'est le bateau, Mounenda Asubui, Mounarudia Mangaribi, vous causez avec les autorités de l'AFCM 23, et le lendemain, on peut avoir des solutions.
Nous sommes prêts pour la démarche, et nous nous sommes déjà inscrits dans cette logique-là, parce que nous sommes dit, la situation traîne. Oui. C'est vrai, le gouvernement discute, dialogue avec l'AFCM 23 à Doha. Ça prend du temps. Vous voyez, ils ont dialogué avec le Rwanda, Washington. Ça prend du temps. Mais la population est en train de souffrir. Et puis les décisions sont en train de tomber du jour au lendemain. Le social de la population est en train de se dégrader chaque jour qui passe. Vous voyez. Et qui est en train de penser au sort de cette population? L'AFCM 23 est en train de vouloir consolider sa présence, bon, disons ses acquis, dans la zone sous son contrôle. Le gouvernement, de son côté, il est en train d'agir, mais ses actions ne sont pas perceptibles pour nous, la population, dans cette zone. Alors, notre réflexion était que le M23, qui contrôle cette zone dans laquelle nous vivons, nous avons aussi besoin de respirer et de vivre. Oui. Que le M23 revoie un peu sa façon d'administrer la zone qu'il contrôle et qu'il laisse un peu d'ouverture ou qu'il donne aussi de l'espace pour que chacun cherche et trouve en réduisant certaines mesures ou en supprimant certaines mesures sur toute la liste des mesures déjà prises, entre autres la mesure par rapport aux nominations dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire au regard des conséquences que cela a déjà au sein de la population. Ça frappe les enseignants, mais les grands perdants, ce sont nous les parents, ce ne sont pas les enfants. Nous qui avons ces enfants qui ne vont pas nous représenter demain, ils ne vont pas jouer valablement le rôle que nous nous attendons d'eux, c'est notre espoir. La nation congolaise aussi. Parce qu'on dit, la jeunesse, c'est l'avenir de la nation. Il n'y a pas une nation sans jeunesse. Et nous allons voir la bonne volonté de l'AFCM 23 dans le report de cette mesure, si l'AFCM 23 compte réellement sur la stabilité de cette zone, le développement, de l'encadrement de la jeunesse et l'avenir. Parce que si ça reste dans cet état, il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse de toute la zone sous contrôle. Et puis, ce sont les parents et la nation qui va disparaître.
Merci beaucoup. Dany Bashige, je crois que l'essentiel a été dit. Et puis, Marc, évoluons dans de réflexions. Dany?
Bon, souvent, vous savez, c'est difficile de parler quand les génies ont fini à parler. Quand on est en face d'un professeur ordinaire comme Doudou Kaganda, on est en face d'Aide Bakulu, Eli Abibu, ils ont déjà parlé. C'est pas toujours facile d'avoir encore les mots. Mais allons-y quand même. Je crois que Tshilombo, le président Tshisekedi, en prenant ce genre de mesures, il a réfléchi politiquement, mais malheureusement, il a réfléchi gauche. Parce que dans son mental, dans sa réflexion, il pensait qu'en prenant des décisions pareilles, il va soulever les étudiants.
Est-ce que c'est lui ?
Bon, la ministre ne peut pas décider sans que cela ne vienne de quelque part.
D'un conseil des ministres ?
D'un conseil des ministres. Les gens ont été bouffés, je crois, en Afrique.
J'ai pas lu les documents. Est-ce que la décision de la ministre fait référence à une décision du conseil des ministres ? Ça, c'est aussi à vérifier dans l'arrêté.
Non, dans l'arrêté, on ne met pas le conseil, mais le conseil est consulté. On a l'aval, mais dans la décision, sinon le ministre est nul. Si en toute chose, il doit mentionner vu le conseil ou la décision du conseil. Donc là, les choses sont consultées. On fait des consultations, on dit ok, c'est valable, mais alors on laisse à chaque ministre la plénitude de son pouvoir apparaître dans les documents.
Mais prof, une telle décision devait quand même venir du conseil des ministres, à ce que je sache.
Bon, ça peut être un conseil des ministres vraiment fantôme, si je dis, puisqu'il doit consulter le président de la République. Peut-être il y a même les membres du cabinet du président de la République qui ont intervenu. Il y a tout un cabinet de toutes les façons. Une telle décision qui touche surtout les aspects politiques, puisque ça, c'est pas une décision technique. Ça, c'est une décision purement politique. Quand vous touchez une zone libérée, ça veut dire que ça devient politique. Ce n'est pas seulement technique. Là, c'est politique.
Daniel,
même dans le règlement intérieur de tous les gouvernements, les arrêtés sont discutés au Conseil des ministres avant que le ministre concerné les signe.
Exact. Mais sans invoquer nécessairement.
Dans le principe. Mais une question comme celle-ci devrait ressortir dans le compte rendu du Conseil des ministres.
On demande à la ministre de prendre acte.
Oui, parce qu'on n'en a pas avant la sortie de la décision. Dans tous les comptes rendus que Mouyaya a fait, moi j'ai l'habitude de les suivre. Je n'ai pas entendu, on a évoqué cette question.
Bon, c'est pour dire que les étudiants, ils ont à s'apaiser. En tout cas, rien de grave n'est arrivé. Il y a encore beaucoup de possibilités d'éviter ce qui peut faire peur maintenant. Donc j'étais disant que c'était une décision purement politique pour essayer un peu de surchauffer les nerfs des jeunes étudiants et voir comment ils pouvaient se soulever. Je sais que c'est ça, c'est ce qui est dans les têtes de certaines personnes à Kinshasa. J'ai entendu mon frère Epimak dire que non, bon, c'est un acte de provocation.
Oui.
Vous appelez ça un acte de provocation, mais c'est des gens qui sont partis d'ici pour aller rester à Kinshasa.
Plus d'une année.
Est-ce que ce n'est pas un acte de provocation ?
C'est une désertion. Bon,
pour le mouvement AFC-M23, il faut mettre les choses sur la ligne droite. Vous ne pouvez pas aller rester à Kinshasa et continuer à gagner l'argent d'ici. Vous dictez les lois à partir d'une distance, je ne sais pas de combien de milliers de kilomètres. Et parce que vous êtes à côté d'un certain Tshilombo, parce que vous supposez que à partir de là, des histoires peuvent se faire, ce n'est pas normal. Qui envoie les items des examens d'État ici? Ce n'est pas Tshilombo. Pour vous montrer, c'est une raison de plus que c'était une décision pour essayer un peu de surchauffer les nerfs des étudiants. Il envoie les items des examens d'État ici. Ça vient de Kinshasa. Les enfants font leurs examens d'État ici. Mais pourquoi il ne le bloque pas? Mais il trouve quelle situation, il n'a quoi en goût, quoi que. Maintenant, il tâtonne. Il prend des décisions non réfléchies. Et vous veniez d'évoquer ici que la question qui est liée à l'éducation ne doit pas être politisée. En plus, qui a dit à Tshilombo que cette année académique va arriver à la fin et qu'il est encore président de la République? Non, on a tiré sur moi, mais ça ne fait pas dire que moi j'ai peur. Balikata maji wakacha moto. Moi je n'ai pas peur, je voulais dire. Donc que ces étudiants s'apaisent. Ceux qui ont fini il y a 3-4 ans, ils ont déjà leur diplôme. Est-ce qu'ils en ont déjà? Bon, logiquement parlant, son mandat se termine en 2028, n'est-ce pas? Donc c'est dans une année. Il va quitter, mais il va nous laisser nos institutions. Tshilombo n'est pas l'État congolais, il représente l'État, mais il n'est pas l'État congolais. Qu'on se le dise. Moi, je voudrais dire aux étudiants, comme l'a si bien dit Elie, j'ai été porte-parole adjoint des étudiants de l'ISP. Des situations pareilles, on les a toujours connues. Il ne faut pas que les enfants aient peur. Inscrivez-vous dans vos universités. Allez étudier. Parce que Tshilombo va partir et celui qui sera là comme président de la République validera ce diplôme-là. Mais si possibilité de trouver encore la solution de manière pacifique, il y a, moi je ne peux pas refuser. C'est mieux. Celui qui provoque les autres, c'est toujours Tshisekedi. Vous avez évoqué la question des pourparlers qui se font ici et là, à Doha et consorts. Est-ce que cette question ne peut pas revenir, comme Idé l'a dit? Combien de gens vous fâchez avec de telles décisions? Combien de milliers de parents sont fâchés aujourd'hui? Ces étudiants qu'ils croyaient soulever, est-ce qu'ils croient que ces étudiants sont pour lui? Il évoque dans sa décision, j'ai entendu quelque part dire que bon, c'est pour des raisons d'insécurité.
Oui, Dani,
où est-ce que les gens meurent plus, oui, entre Dani, chez lui et Dani, ici?
Merci, oui, beaucoup, Dani. On comprend que la décision prise par Kinshasa pose problème, mais également la décision prise par l'AF-523 pose problème. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la situation de nos enfants. C'est en octobre. La rentrée académique, je crois, c'est dans un mois et demi. Parce qu'il y a même des collations des grades académiques qui sont en train de s'organiser ici et là. Alors, la faisabilité même de la décision de Kinshasa. Comment à l'UCB on va étudier et à l'IOB on ne peut pas étudier, ou à l'ISDER on ne peut pas étudier, hein? Comment à l'UEA on va étudier et à l'ISC on ne peut pas étudier? Comment ça va se passer, hein? Que dans des universités privées on continue les études et dans des universités, instituts supérieurs officiels, les enfants restent à la maison. Donc, c'est pour dire qu'on veut demander à nos enfants d'aller dans des institutions privées. C'est ça. Donc,
qui ne les contiendra, qui ne les contiendra pas tous, c'est impossible.
La mesure, conséquences financières, puisque à l'officiel, on paye moins qu'il y a dans le privé.
Donc, ça c'est un problème par rapport à la décision prise par Kinshasa. C'est difficile aux institutions privées de contenir les étudiants en provenance de l'UCB, de l'ISDR, de l'IOB plutôt, de l'ISDR, de l'ISTEM, et de les envoyer il est difficile que ces écoles là-bas, ces étudiants contiennent soit inscrits dans des institutions privées. Mais aussi l'effet pour vous de la FM23 de rassurer, oh n'ayez pas peur, ça c'est bon, on ne vous voit pas vraiment en train de réfléchir en profondeur, parce que ne vous en faites pas, Kinshasa ne recule pas, comme vous aussi vous ne reculez pas. C'est vrai, ce sont les 48, mais il faut vous poser la question, Ali Obe Kuko ba limungapi, parce que Kuko ba professeur ba personnel ouvrier na ba administratif nanani. Kuna quoi ta 500 personnes parle. Alors, si ces gens là-bas osaient continuer les inscriptions et que Kinshasa et au courant, moi je vous dis, la liste va se prolonger.
C'est clair.
Alors, moi la question que j'étais en train de poser, est-ce que au niveau de la FM23, vous êtes en train de calmer, sans pour autant dire comment vous allez calmer, parce qu'on devait parler de chiffres. Déjà savoir à l'IOB, il y a combien de profs, combien de chefs de travaux, des assistants, des ouvriers, nangapi mutakwa monavali pas par rapport à ce que Kinshasa donne. Est-ce que le mouvement a été préparé pour ça? Alors, c'est pour ça que moi, j'ai posé le problème auprès d'EPIMAC. J'ai dit, société civile, trouvez des solutions, hein, contactez, faites le plaidoyer. Et donc, les uns les autres ont posé des actes qui posent problème au niveau de la société. Nous ne devons plus continuer à discuter. Il reste un mois et quelques jours. Et c'est plus un mois parce que les inscriptions, est-ce qu'on va arrêter les inscriptions?
nous qui diffusons les communiqués, est-ce que nous allons les arrêter parce qu'il y a des communiqués de l'IOB ici, de l'ISDR et d'autres institutions? Donc nous allons retirer dans les lots des communiqués d'inscription ces institutions officielles, hein, et nous laissons les communiqués des institutions privées invitant les étudiants à aller se faire inscrire. Les enfants qui sont en train de nous suivre à la maison, hein, qui doivent étudier, je ne sais pas, faire la sociologie, faire la médecine, d'autres domaines, les droits, les sciences politiques à l'IOB, d'autres qui vont faire le développement rural. Bon, ils sont dans quel état actuellement?
C'est des milliers. S'il vous plaît, Thaïs, il me semble que on avait déjà évolué dans les débats avec les propositions que vous avez faites. Je voudrais peut-être me tourner vers mes amis Élie et Dany. Élie connaît bien ce qu'on appelle conseiller du prince, parce qu'il a fait les sciences politiques. Un conseiller du prince ne donne pas seulement des conseils idéologiques. Le conseiller du prince peut aussi aller en contre-courant du prince pour l'aider à mieux gouverner. La question qui est posée ici, ce n'est pas parce qu'on est opposant, le FC23 s'oppose à monsieur au président de la République Félix Tshisekedi, que on ne peut pas reconnaître qu'il y a des actes qui touchent les intérêts de la population. Et que donc cette question ici devrait sortir du champ idéologique pour voir quel est l'intérêt de la population. C'est pas nécessairement qu'on va dire non, il va partir demain, oui, c'est 2028. Là n'est pas la question maintenant. Mais pour autant qu'il a l'impérium, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que les populations, notre jeunesse,
comment l'influencer,
sacrifiées.
Comment l'influencer?
Pour autant que on demande effectivement, selon la pensée que je considère assez intéressante de Thaïs, alors c'est civil, allez tout de même, parce que c'est le pouvoir qui est sur ce territoire. Allez parler à l'AFC23 pour dire cette mesure ici vient de créer des problèmes dans la société. Il y va. Je peux vous rassurer, du point de vue de la réflexion, il y va plus de l'intérêt de l'AFC23 que du gouvernement de Kinshasa.
Oui,
parce qu'effectivement, la légitimité, ce qu'on a appelé ici, comment la population va croire en la révolution qui prive à ses enfants, ou qui est à la base, en tout cas, de la non-scolarisation des enfants.
Et cette proposition,
donc, il faut vraiment
elle est appliquée vite, parce que vous allez vous retrouver dans une semaine que beaucoup d'étudiants ont quitté la province pour aller se retrouver dans d'autres zones. Bon, donc, les professeurs ici, ils sont professeurs, ils peuvent enseigner. Et quand on a défendu sa thèse, il y a des professeurs ici qui donnent cours à l'université de Kisangani, à l'université de Lubumbashi, à l'Inikin. Le prof Kabenda peut quitter ici, il va aller s'installer là-bas, il va donner cours. Il n'est pas obligé de rester ici. Mais maintenant, qui va perdre?
C'est pour cette raison.
Ce sont nos enfants. Et donc, nous, on devait plutôt réfléchir. Tous ces professeurs qu'on a désactivés ici, demain après-demain, vous pouvez ne plus les retrouver ici en province.
Oui, bon, c'est voilà. Ce que vient de dire le professeur.
Quand on est professeur, c'est un document reconnu mondialement. Donc, il faut vraiment réfléchir, aller vite, que l'on ne puisse pas perdre tous ces professeurs, parce que d'autres auront peur de rester ici, de peur que ça va désactiver.
Oui.
Ils vont se retrouver dans une autre zone. Et surtout si vous avez lu les documents de la ministre, elle a dit ceci. Une autre circulaire enjoint aux établissements des zones sécurisées de faciliter l'accueil des étudiants déplacés, notamment médecine et les finalistes, pour leur permettre d'achever leur cursus. Ça suffit quoi? Il est en train de demander que...
Ne vit pas au Congo, cette ministre, peut-être.
On est en train de demander aux étudiants qui sont ici
bayende mazone zenye ziko contrôlé par
assez ziko sécurisé.
Ouais, c'est ça.
Donc elle ne vit pas, elle ne vit pas en République démocratique.
Mais notre aspect, c'est ce que les gens ne voient pas. Vous êtes limité à parler de la question de désactivation. C'est la question de matériel. Mais il y a ce qui est encore plus profond qui est annoncé et qui sera encore plus grave. C'est on vous écarte définitivement de l'enseignement supérieur et universitaire. Et donc, si une telle mesure est prise, vous savez, il y a des gens, vous me connaissez, je suis parti de l'assistant du premier mandat au professeur ordinaire. C'est toute une vie. Lorsque le gouvernement national qui tient la symbolique de ton diplôme, de ton statut, te le retire, eh bien, nombreux vont mourir d'AVC. Parce que il suffit qu'on vous révoque définitivement pour que vous voyez votre vie terminée. Et aujourd'hui, même imaginez-vous les enfants, les membres de famille de ces professeurs, qui vont être demain révoqués définitivement. Et donc, quand on vous retire les statuts au Congo, ça n'est fini le monde entier. Que justement, la révolution ne peut pas offrir parce qu'il n'a pas cette symbolique d'État. Il faut dire les choses de manière tout à fait rationnelle. Et c'est pourquoi, justement, on dit les conseillers du prince ont aussi l'obligation de donner des conseils techniques. Des conseils rationnels. Et j'espère bien que peut-être ce que nous disons ici, la société civile devrait sortir aussi de sa phobie et prendre à bras le corps ses responsabilités. Parce que je ne crois pas que le nom de l'AF-123 soit la gâchette.
Non.
C'est un pouvoir de
avec
et qu'il faut vraiment rencontrer.
Je crois que dans les universités, il y a encore, comment on appelle ça? Ce que vous avez dirigé à l'ISP, il y a les collèges des étudiants, ils devaient se réveiller depuis un temps. Apparemment, ils s'étaisent, pourtant c'est leur vie. C'est eux qui devaient rencontrer la société civile pour dire qui peut nous aider à faire quoi et on avance ensemble.
Je voudrais conclure, Thaïs, en disant que je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit dans ces studios. Et c'est pour cette raison que même j'ai appuyé l'idée du prof en disant que la société civile peut s'organiser pour aller rencontrer les autorités et continuer à discuter. Mais dans l'entretemps, je vous dis, je ne suis pas prophète, mais je vous dis, cette décision n'ira pas loin. Ça ne prendra même pas 3 mois. Que ces étudiants qui veulent étudier dans les institutions de leur choix, qu'ils se sentent libres, de s'inscrire parce que ça va passer. Est-ce que ce sont ces étudiants qui ont invité le mouvement AFC-M23 ici?
Ça, mon avaraciera et Dani Bachir.
Non, d'abord.
Ils ne savent pas de le dire.
Quelle
assurance?
L'assurance est à deux niveaux.
Oui, parce que quand au niveau de l'AFC-M23, on dit qu'on va payer ces enseignants.
Les gens qui gonflent
avec quel fonds? Parce qu'il y a possibilité que Kinshasa rallonge la liste. Mais est-ce que ça a été prévu? Sur quel fonds on va toucher pour payer? Si à l'IOB il y a 500 agents, à l'ISTEM il y a 500.
Il y a l'argent.
Alors, vous avez l'argent? Alors, il faut organiser, faire des réunions et dire à chacun combien il gagnera. Oui. Même les doudous qui gagnent ici, ils seront désactivés s'ils se décident d'aller donner cours. Sans l'aval de Kinshasa,
il sera désactivé.
Franchement, je voudrais conclure, Thaïs. Je ne voudrais pas que ce débat aille dans le sens de faire peur aux jeunes étudiants. Il ne faudrait pas qu'ils se rassurent d'abord. Moi, je vous l'ai dit, on a l'habitude de connaître des périodes pareilles. Ces étudiants n'ont rien fait de mal pour mériter ce que vient de prendre comme décision M. Tshilombo. Et ce sont eux qui nous ont invités ici. Bien au contraire, c'est lui qui a fait que le mouvement arrive ici, c'est Tshilombo lui-même. Qu'est-ce que Kamere ne lui a pas donné comme conseil? Cause avec ces gens comme ils sont encore à Bounagana. Mais il n'a pas accepté. Aujourd'hui nous sommes ici, aujourd'hui nous sommes loin même d'ici. Est-ce que ce sont ces enseignants qui nous ont invités ici? Est-ce que ce sont ses étudiants, ce sont ses parents, ce sont ses enseignants qui ont empêché à Chilombo de demander à son armée de nous chasser d'ici? Son armée qu'il qualifie lui-même de clochard. Donc il y a beaucoup de questions et je vous dis, dans cette décision, il y a encore beaucoup d'exceptions et je vous dis, ça sera levé. D'accord. Je n'empêche pas que ça aille dans un sens ou dans un autre, comme d'accord. Epimak l'a dit et le prof Doudou Kaganda, y compris Ide Bakulu. S'il faut rencontrer le mouvement est toujours prêt pour recevoir les gens. Encore que vous-même, vous veniez de dire ici, beaucoup de ces enseignants qui ont été nommés dans ces comités de gestion, ils n'ont pas été consultés. Et s'ils ont été consultés, où est le problème? Où est le problème? Alors, je conclus en disant que le mouvement n'est pas venu faire ce qu'on appelle chasse à l'homme ici. Ceux qui étaient dans ces comités de gestion, on a fait que leur reconduction, n'est-ce pas? On les a reconduits. On a remplacé seulement ceux-là qui ont choisi d'aller rester à Kinshasa, que mon frère Epimak continue à prendre comme dessein. Donc ils sont partis se reposer là où il y a Oasis de paix, et ici ça ne va pas.
D'accord.
Banawaza bonjour, qu'on a acquis les cousidia, prof Doudou Monya et quoi pas.
Merci beaucoup.
Banawaza bonjour, on a cousidia, et puis maintenant, Debakulu ou Eli Abi.
Prenons 5 minutes avec le bourgmestre adjoint de la commune de Baguira, monsieur Léon Bahaya, qui va nous parler du développement dans la commune de Baguira. Et puis nous allons revenir sur l'autre sujet en sollicitant le point de vue de chacun. Mais nous nous sommes déjà entendus, je crois que les auditeurs ont bien suivi, la société civile, les collèges des étudiants ont une grande responsabilité.
Même la communauté internationale.
Voilà.
Non, est-ce qu'on l'a consulté?
Ils ne sont pas consultés.
Les élus nationaux et provinciaux, on ne peut plus compter sur eux. Il faudrait qu'il y ait des réflexions locales pour rencontrer les autorités, non seulement au niveau d'ici, mais également au niveau de Goma et au niveau de Kinshasa, pour trouver rapidement des solutions et rassurer les uns et les autres, surtout rassurer les professeurs et les enseignants qui sont payés par Kinshasa, parce qu'il suffira qu'ils osent désobéir à cette décision de Kinshasa, ils vont se retrouver aussi sur la liste. Donc il faut des assurances, il faut des assurances, et les assurances ne peuvent pas venir dans ce studio, il faudrait que d'autres rencontres se tiennent. Léon Bahaya, bonjour.
Oui, bonjour à Thaïs, bonjour à tous les co-débatteurs d'ici présents au studio et les auditeurs de la radio Mandeléo. Et merci pour la parole. Avant de parler de la commune de Baguira, je voudrais d'abord rappeler qu'au mois de janvier 2026, le coordonnateur de l'AFC M23 avait invité les conférences provinciales des établissements à Bukavu, du Sud Kivu et du Nord Kivu. Donc, les DG et les recteurs des universités et des instituts supérieurs de l'enseignement. Et on avait évoqué cette question parce que moi aussi, je faisais partie de l'équipe parce que j'ai représenté l'université de Bukavu Libé. Les conférences provinciales des établissements avaient bien souligné, avaient évoqué la question de désertion de certains dirigeants des universités et des instituts supérieurs qui sont partis rester à Kinshasa depuis plus d'une année et ne se sont jamais présentés. Entre-temps, ils continuent à mettre pression pour qu'ils obtiennent leur prime au sein des universités et des instituts supérieurs. Et pourtant, même en droit de la fonction publique, on nous avait enseigné que la prime est donnée en fonction de la prestation. Comment quelqu'un ne preste plus, est allé rester à Kinshasa, mais continue à bénéficier la prime qui devait être bénéfique aux autres qui prestent? C'est un problème sérieux. Vous voyez les secrétaires généraux académiques. Vous êtes académique, mais vous n'êtes pas sur place. Mais vous êtes allé rester à Kinshasa. Comment vous allez diriger l'académie en étant à une longue distance, à plus de 2000 km, pendant que les autres sont là, mais qui ont les soucis de servir, mais ils n'ont pas cette possibilité de bénéficier de cette nomination. Moi, je suis fier de me retrouver en face de mon enseignant. Doudou Kaganda m'avait le prof Doudou Kagan m'avait dispensé le cours DDC éducation à la citoyenneté en 2010 à l'IOB. Et j'avais pris, il était encore assistant du premier ou deuxième mandat à l'époque. Mais ce que je voudrais, c'est que je dénote un peu dans son argumentaire, dire que c'est l'AFCM M23 qui est provocateur. Ça ne passe pas. Les provocateurs, c'est Tshisekedi qui avait invité, qui avait récupéré, qui avait conduit les dirigeants des institutions éducatives à une désertion intolérable. Oui, la loi prévoit que même après 90 jours, vous n'êtes pas en fonction. Avant d'aller à Bagira, je voudrais aussi rappeler que le prof Doudou Kagan a dit que non, on ne nomme pas les DG ou les recteurs, on les élit. Je me souviens l'arrêté de Nzang. Ça fait plus de 3-4 ans que Mundo Nzang avait pris et s'est arrêté pour que quelqu'un soit DG ou recteur, il faut qu'il soit nommé. Mais Tshilombo ne l'a jamais fait. Il nomme toujours en violation toujours de cet arrêté. Aucun DG n'a jamais été élu ni recteur. Je suis en face de mon professeur qui m'avait dispensé le cours, mais il ne dispose pas le monopole de mentir en face de son étudiant qui est aussi un peu bien informé. Ça ne passe pas. Ce que moi je voudrais rappeler, que le système LMD, c'est vrai, prévoit que les communautés, les comités de gestion, là on doit ressortir, on doit élire un DG ou recteur. Et on soumet au ministre pour la nomination. Mais ça n'a jamais été fait. Vous voulez maintenant que l'AFCM23 puisse prendre ses décisions pendant que le secrétaire général même n'a jamais exécuté aucun acte.
Vous êtes venu corriger,
c'est la révolution.
Nous sommes venus corriger. Oui. Les gens qui ont été reconduits, qui ont été nommés, c'est parce qu'il y a eu des vides. Il y a eu des postes vacants que ces vides devaient être comblés.
Vous
comprenez? Epimac est là. Mais son argumentaire est en train d'aller dans l'individualisme. Il ne réfléchit pas techniquement comme le prof Aïdé, Bakoulou et les autres, mais lui, il est en train d'individualiser l'homme. Entre lui et lui, comme s'il y a un problème. Au lieu de réagir scientifiquement.
Vous permettez que...
Pour que je puisse...
Il y a ceci. Je voulais vous proposer quelque chose.
Oui, Thaïs.
Nous pouvons remettre à dimanche prochain les sujets de développement sur Bagira pour que vous ayez beaucoup de temps.
Non, j'ai 2 minutes pour Bagira. J'aborde directement dans moins de 2 minutes.
Oui, c'est juste. Apparemment, vous étiez intéressé qui concerne... par.
Oui.
Mais il y a quand même.
Voudrais...
Monsieur le bourgmestre,
laissez-moi terminer mes 2 minutes.
Vous avez beaucoup parlé par rapport à nous.
Vous avez déjà parlé au moins 5 fois.
Le timing, vous avez trop parlé.
Je voudrais parler. Non. Pour Bagira, Thaïs, je voudrais rappeler que la commune de Bagira est en train de développer beaucoup de mécanismes pour redorer son image.
Elle fait beaucoup d'innovations.
Il y a d'innovations, surtout dans les secteurs d'assainissement. L'assainissement avec des piliers. Il y a les travaux communautaires communément appelés Salongo et les marchés pirates. Concernant les marchés pirates, comme nous avait été assigné par le gouverneur des provinces, son Excellence Patrick Boussou-Wangui, qui ne veut pas voir des marchés pirates dans la ville, sur toute l'étendue de la province, particulièrement dans la ville de Bukavu. En commune de Bagira, nous étions impliqués pour voir comment évacuer tous les vendeurs des marchés pirates sur les voies principales. Nous avions commencé par les marchés par Bagira, quartier Nyakavogo et Lumumba. Il y a un rond-point communément appelé Chechibinda, là où il y avait les vendeurs sur la route principale, et nous avions décidé, nous les avions sensibilisés et ont compris de rejoindre les marchés Nkunda. C'était un marché bien construit et nous y avions installé les lampadaires pour qu'à partir de 18h, ne puissent plus aussi retourner dans la rue. Au niveau du quartier Nyakavogo, juste à l'entrée principale de la maison communale de Bagira, il y a des marchands, des vendeurs qui restaient de là jusqu'au niveau de Maïndélé au quartier C. Nous avions estimé les faire sortir de là pour les installer du côté quartier C, communément appelé Chetate, c'est provisoirement parce qu'on est en train de chercher un autre endroit où on peut créer un marché public qui peut les contenir tous. Mais au moins, ils ont accepté. Au niveau, depuis l'Instiba, l'Institut de Baguira, vers la maison communale, vous voyez qu'il y avait les gens, il y avait les vendeurs sur la route, nous les avions sensibilisés jusqu'au point de se retrouver actuellement au marché central de Baguira. Au niveau de la brasserie sur la route Bralima-Farmakina, nous avions estimé prendre une servitude. Il y a une servitude qui existe depuis l'an 2012 que nous avions eu à bénéficier en compensation avec les centres de retraitement minier, CRM. La servitude était convoitée par les spoliateurs. Ils venaient chaque fois à la commune de Baguira pour rencontrer mon titulaire, Chaka Moza Jamari. Il y a ceux-là qui ont failli d'être arrêtés suite à la tentative de corruption, de vouloir aussi spolier cet endroit. Et mon titulaire, Chaka Moza, avait estimé, en collaboration avec le cadre de base, Société Civile et le CRD, de trouver un endroit où on peut placer, on peut installer ces vendeurs. Et nous avions décidé que la servitude là puisse être bénéfique à ces vendeurs pour qu'ils quittent sur l'artère principale de ces routes Bralima-Farmakina. Et nous avions sollicité auprès de son Excellence Monsieur le Gouverneur Patrick Boussou-Wangui des outils, des machines pour voir comment rembler cet endroit pour que nous puissions avoir une grande parcelle qui peut contenir au moins plus de 500 personnes. Et cet endroit est là. C'est le vendredi que nous avions que la machine nivelleuse avait remblé cet endroit. Et c'est demain lundi que nous allons les installer selon les rayons. Donc il y a 12 rayons. Au niveau du marché, au niveau de rond-point Bralima, nous avions pris aussi une mesure de sensibiliser toujours les mêmes marchands, les mêmes vendeurs, et on les a installés au sein du marché Kafou Brasserie. À Chiriri, tous ceux qui viennent à partir de Chiriri, depuis la paroisse de Chiriri jusqu'au rond-point hôpital Docteur O, tous ces vendeurs ont été sensibilisés et ont rejoint le marché central de Kasha, communément appelé Loakabiri. Chai et Bolo Kasha, les gens aussi continuent toujours à être sensibilisés sans aucune pression pour qu'ils puissent rejoindre les marchés et leur faire comprendre la nécessité de rester au marché que de s'exposer aux différents accidents des véhicules dans de.
Merci beaucoup. Voilà.
En ce qui concerne les salons évoluent calmement bien et parce qu'au moins chaque jeudi ou vendredi, nous faisons sortir le programme des salons, les agents du personnel administratif de la commune, de même que politique. On se déploie, on se partage les axes et nous voyons souvent la coordination des mobilisations de l'AFC M23 aussi arrive souvent dans les axes pour soutenir les actions.
Nous sommes talonnés par le temps.
Donc nous,
et le cabinet du gouverneur.
Et le cabinet du gouverneur. D'ailleurs, on a reçu hier l'intendant général et le secrétaire administratif, voilà. Là où on a
eu Bakulu,
à évacuer les marchés.
Merci beaucoup, Léon. Vous aurez la parole.
Pour terminer.
Non, Thaïs, vous aurez encore la parole.
Nous invitons nos jeunes.
Voilà.
Nos jeunes camarades, futurs diplômés, futurs licenciés, de prendre les inscriptions au sein des universités. Il y a ceux qui ont terminé les études. Ça fait 5 ans, n'ont jamais obtenu leur diplôme, mais sont déjà en fonction.
Voilà.
Pourquoi ne pas aller aux études?
Il était dit que.
Et le mal que nous avons, Thaïs, parce que Chilombo, tu sais qu'il n'a jamais fait l'université, il n'a même pas un diplôme d'État, c'est pourquoi il n'a pas le souci de soutenir les gens. C'est ça le problème. C'est un problème très sérieux. Vous attendez à quoi? Si quelqu'un n'a jamais fréquenté l'université, il peut avoir quel souci? Et puis, les gens veulent, surtout Epimac, veulent toujours rejoindre sa position de quelqu'un qui n'a jamais fréquenté l'université, comme nous, qui n'a jamais bénéficié même des enseignements de
Nous allons poursuivre. Merci beaucoup, Léon Barrière. Merci.
Ça ne passe pas.
Merci beaucoup. Nous allons terminer avec ce sujet. Idé Bakulu, vous étiez avec nous dans ce studio par rapport à ces problèmes qui concernent nos enfants dans des universités. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Oui, quand je commençais, je posais une question à Doudou. Qu'est-ce qui valide un diplôme? C'était vraiment une question qui me tient à cœur. Ce qui valide, c'est vrai que c'est l'État qui donne les diplômes, parce que c'est un diplôme d'État. Mais ce qui fait de ce diplôme, parce qu'il l'a dit, le diplôme, ce n'est pas le papier, c'est ce qu'on a eu pendant tout son parcours.
Le contenu.
Tout son parcours. C'est ce qui est symbolisé par ce diplôme-là. Et aucun État ne pourrait prendre la responsabilité, à mon sens, l'État ne peut pas prendre la responsabilité de ne pas accorder les diplômes à ses étudiants. La deuxième chose, c'est que la mesure qui a été prise à Kinshasa, j'ai dit que ce n'était pas bon pour l'AFCM 23, malgré, c'est vrai, on a dit qu'il y a eu des absences, des désertions, mais ce n'était pas bon pour l'AFCM 23 de prendre la mesure. Mais la contre-mesure est disproportionnée, totalement disproportionnée. La contre-mesure frappe les étudiants. Les étudiants en sont victimes aujourd'hui, les étudiants et les parents. Donc cette contre-mesure-là a été vraiment, comme on dit dans les manifestations, que les jeunes se mettent sur la rue avec des calicots et que l'État vienne avec les armes létales. Donc c'est disproportionné. D'accord. La mesure qui a été prise a été disproportionnée. Alors, la troisième chose, on ne peut pas défendre l'État en fragilisant l'un de ses secteurs clés. Défendre l'État, c'est bon. La ministre défendre la souveraineté, c'est bon. Mais on ne peut pas défendre la souveraineté en fragilisant les secteurs clés qui est l'éducation.
Merci beaucoup.
Alors,
prof,
je voudrais finir par deux petites choses. Je pense que la mesure qui a été prise pouvait distinguer le fonctionnement académique de la gouvernance administrative. Le fonctionnement académique continue. La gouvernance administrative, si c'est le M23 qui a nommé aussi ce Kinshasa, ça ce sont des choses qu'ils vont discuter, mais que le fonctionnement académique continue. D'accord. Et on ne peut pas défendre l'autorité légale. Il faut défendre l'autorité légale sans sacrifier les droits des étudiants. Et enfin, il y a un problème qui est vrai, qui est sérieux. C'est la société civile. Comme l'a dit Doudou, comme l'ont dit les autres, mes chers frères, nous vivons ici. Et ici, nous avons ceux qui nous gouvernent. Que vous les acceptiez ou pas, ils nous gouvernent. Et quand ils nous gouvernent, nous devons leur dire nos problèmes. Étant donné qu'il n'y a pas de parti politique pour contester certaines choses, hein? C'est la société civile qui devrait prendre ce rôle-là.
D'accord, merci beaucoup.
C'est la société civile qui devrait. Moi, j'ai vu ça chez nous à Idjoui, où il y a quand même des choses qui peuvent être redites sur la taxation et consorts, mais il n'y a personne pour aller dire aux autorités.
Oui, les gens ont peur.
Ils ont été frappés.
Pourtant,
les gens ont peur. C'est pas pour rien qu'ils ont eu peur.
Et on va avoir peur.
La situation d'Idjoui, je connais très bien. On a frappé beaucoup d'acteurs de la société civile.
Non. C'est...
Oui.
Attention.
Et il y en a nombreux dans la vie de Bukavu.
Non, il faut faire attention.
Il y en a nombreux dans la vie de Bukavu.
S'il vous plaît, moi je suis d'Idjoui.
Oui, je sais.
Je connais toute la situation chaque jour.
Oui, je sais.
Qu'est-ce qui se passe à Idjoui? Les gens ont fui.
Oui, ils ont fui.
On va terminer.
Ils n'ont pas fui de vide.
Prof de Dokadanda. Qu'est-ce qu'on retient en fin de compte, prof?
Oui, ce que j'avais bien répondu à Idé, je ne sais pas pourquoi il ne voudrait pas comprendre que le diplôme est rattaché à la symbolique de l'État. Et quand on n'est pas un État, il faut éviter de prendre certaines mesures. Et je voudrais tout de même quand même dire à notre bourgmestre que je n'ai pas menti. Parce que justement dans mon argumentaire j'ai dit que j'ai constaté que l'AFCM 23 n'a pas fait non plus de rupture par rapport à cette pratique de déverser ces troncs pleins de cadres hautement formés dans les universités comme ça se passe toujours alors que c'est pas de cette façon. Mais enfin je voudrais quand même dire qu'il y a moyen d'ailleurs dans l'interview que j'ai donnée à Radio Mandela la fois dernière de ramener cette question dans des espaces de négociation le plus rapidement possible.
D'accord.
Afin que les enfants retrouvent.
D'accord.
Mais nous ne quittons pas ici quand même sans réserver une pensée pieuse à un de grands professeurs qui est décédé le même jour de la décision. C'est pas à cause de la décision, il était malade. Il s'agit du professeur Ndomba, qui a tiré sa révérence. Donc le milieu universitaire est en deuil. C'est un de grands qui a donné sens aux enseignements d'anglais et dans notre ville, soit à l'IOB, à l'ISP, à l'IEA. Il nous a quittés.
D'accord.
À la pensée pieuse.
Merci beaucoup. Elie Abibou, merci. On termine, Ali.
Bon, moi, je pense que je vais relativiser un tout petit peu la pensée de Bukaganda. La symbolique de l'État. L'université est universelle. J'imagine quelqu'un qui a fini au Burundi. Il a un diplôme du Burundi, mais qui peut travailler au Congo. Donc quand vous parlez de la symbolique de l'État, là vous voulez mystifier l'État. Oui, au sens de la puissance publique.
Il est mystifié.
Alors que l'État, effectivement, devrait être organisateur, mais notre État, avec son illégitimité, il n'est plus
organisateur. On a plus assez de temps.
Oui. Je vais finir en disant et rassurer tout le monde que, effectivement, les universités et institutions supérieures vont bel et bien fonctionner dans les zones libérées par l'AFC M23. Les mesures seront prises à tous les niveaux pour que les enseignements soient dispensés et selon un programme bien défini. Ce sera un programme national puisque nous gardons le même drapeau, nous gardons la même monnaie, nous avons le même symbole de l'État, nous les avons ici. C'est d'accord. Que nous ne nous opposons pas à l'État congolais. Okay, nous nous opposons à la tête d'un individu, d'un régime. C'est ça la grande différence. C'est pour ça que j'ai dit à Coco, effectivement, j'avais peut-être une mauvaise compréhension de l'État aujourd'hui. Même les histoires des droits humains et tout ça. Je veux dire, finissant, que ce n'est pas seulement la société civile sur laquelle nous allons compter dans cette question-là. Nous allons compter aussi sur la communauté internationale.
Merci.
L'UNESCO sera prise à témoin. L'UNICEF sera prise à témoin. Et donc, c'est pas seulement la société civile du Congo, mais encore qu'elle aussi est désorganisée aujourd'hui. Mais nous allons compter
sur
la communauté internationale, elle qui nous réunit toujours.
Trois petites choses. Les enseignants, les étudiants, les parents, personne ne nous a invités ici comme mouvement FCM23. C'est lui qui nous a invités ici, c'est Chilombo. Et s'il se prend pour un garçon, s'il est homme, qu'il vient nous chasser ici, comme ça il va encore remettre ses enseignants-là dans leur poste. Deuxième petite chose, je voudrais dire que le mouvement FCM23 ne peut pas faire allégeance à un gouvernement de tâtonnement, qu'en perte de vitesse, un gouvernement finissant. Trois, et la dernière, rien ne rassure à Chilombo que cette année académique va arriver et qu'il est encore au pouvoir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. En fait, moi, j'ai ressenti seulement une seule chose. Nos amis de l'FCM23, bon, ils parlent, oui, c'est comme s'ils étaient branchés. On dirait qu'on leur a privé de la faculté de réfléchir sociale. Ils ne font que défendre l'FCM23. Alors que les choses peuvent changer demain. Et quand ça va changer, quelle sera leur position? Dany dit, c'est pas Tshisekedi qui les a invités ici. C'est pas Tshisekedi qui les a. Si c'est Tshisekedi qui les a invités, c'est pas quoi. Lui aussi a été surpris par la présence du M23 ici, comme nous tous. C'est que personne n'a invité le M23, il s'est amené. Mais ce pourquoi il s'est amené, il ne le fait pas très bien. Et nous souhaiterions qu'il fasse les choses différemment de Kinshasa, qu'il prétend chasser du pouvoir pour mauvaise gestion, mauvaise gouvernance. Mais lui aussi ne gère pas correctement. À lui maintenant, et à Elie et les autres qui ont étudié, voyez, et qui sont intelligents, que leur intelligence, ils la mettent au service de la nation dans la zone occupée. Et enfin, dans la zone sous contrôle. Enfin, il y a la question de l'éducation. La question de l'éducation doit rester centrale. Que le M23 ne s'obstine pas à sa position. Tout le monde commet des erreurs. Laissez-moi terminer.
C'est pas le gouvernement de Kinshasa, monsieur.
Entre nous, que le M23 ne s'obstine pas à la décision qu'il a prise. Les erreurs, nous les commettons tous, mais perturber. Persévérer dans l'erreur, c'est ça ce qui n'est pas compréhensible. On dit souvent que c'est diabolique. Du côté de Kinshasa, il doit faire aussi pareil. Réfléchir sur le social et la mesure qui a été prise.
Je vais demander à l'archevêque de changer.
Nous sommes déjà vraiment. Excusez-moi.
Ça ne marchera pas.
Oui. Merci beaucoup, Thaïs. C'est juste un message de remerciement et de reconnaissance à la population de Baguira qui est en train de contribuer pour la finalisation du projet de la réhabilitation du bâtiment administratif et de ses dépendances de la commune de Baguira. Félicitations aussi pour le projet de réhabilitation, pour le projet de construction du bâtiment administratif du quartier Chiriri, qui abritera aussi les bureaux secondaires de l'état civil. Mais aussi les escaliers, le projet des escaliers, projet de construction des escaliers de Chai qui regroupe 4 avenues vers la limite avec le groupement de Moudoussa en territoire de Kabare. Nous invitons la population de continuer toujours à nous prêter main forte pour que nous puissions atteindre le projet de développement.
Fin de l'émission Paix et Développement. Bon dimanche.